deuxième journée d'enregistrement à la convention du film fantastique de Rouen. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Alors là j'enregistre une petite intro seule parce que on est parti tellement tellement à fond en cette deuxième journée qu'on a oublié d'enregistrer une intro. Et comme on n'avait pas Marius en ce deuxième jour, on s'est retrouvé à sec. On a attaqué directement avec les interviews. Donc voilà, ce jour-là, nous étions donc quatre autour de la table. Ludo, Arnaud, moi-même et Didouille qui est venu nous rejoindre en cours d'enregistrement. Je vais vous laisser écouter nos interviews avec les comédiens de doublage des séries assez connues, hein, puisque c'est Game of Thrones ou The Walking Dead. Et Ludo également nous fera un retour sur la deuxième soirée de projection du festival du film fantastique et un petit focus sur les lauréats. Voilà, je vous souhaite donc une bonne écoute. À plus.
On reçoit
un doubleur spécialisé dans le doublage de Bip, en fait.
Bon, déjà, on dit pas
des comédiens de doublage.
Déjà,
comédien de doublage.
Déjà, il va se prendre le micro dans la
gueule.
Alors, Ludo, présente-nous.
On est un comédien qui fait du doublage.
Ouais. D'accord. Voilà. Et ça va faire partie des choses qu'on va préciser, justement.
Exactement. Voilà. On reçoit Emmanuel Carsen.
Ouais. Donc, lui-même.
Lui-même, en chair et en os. Ouais. Donc, alors, pour les auditeurs qui donc ne le voient pas, il est nain et il est noir.
C'est pour l'anecdote de tout à l'heure.
Non, je suis pas nain, je suis pas noir, c'est pas vrai.
Donc Emmanuel Carsen qui est donc comédien de doublage et
comédien qui fait du doublage.
Pardon, Emmanuel, tu fais bien. Vas-y, n'hésite surtout pas.
Pas de mal. Parce que je vais me faire taper par mes collègues. Moi personnellement, je m'en fous, mais c'est mes collègues qui risquent de me dire, tu laisses dire ça.
Donc voilà. Comédien qui fait du doublage effectivement, qui est donc aujourd'hui alors invité en tant que voix française de Daryl, ouais. Un des personnages de la série
The Walking Dead.
Ouais. Mais qui n'est pas que ça. Puisqu'en fait, qui est loin d'être ça, puisque, en tout cas, et pour moi, ça me parle très fort, c'est également la voix de Sean Penn. Et pour moi, Sean Penn, c'est Mystic River. Sean Penn, c'est Tree of Life.
C'est plein d'autres films.
On va pouvoir en parler.
Harvey Milk.
C'est Gunman.
Dernièrement, c'est pas le meilleur.
Mais bref, c'est
Sam, je suis Sam, c'est She's So Lovely,
exactement.
C'est Utter.
Et toutes ces voix-là, tu les as tous doublés, ces films-là,
la
d'accord.
La dernière marche, c'est plein de films.
Et je voudrais juste préciser avant de commencer les questions, c'est que, Emmanuel est comédien et fait du doublage. Mais Emmanuel, tu as également en fait une carrière dans le cinéma, la télé, également
la musique
avec ton groupe Les Héroïques, je crois.
Et Les Héroïques, exactement.
Et
vraiment,
puis
allez voir d'ailleurs sur YouTube, ça me ferait plaisir.
Et bien voilà,
c'est Emmanuel Carsen, Les Héroïques.
Et on ira
voilà,
voir
vous
ça.
Vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir, vous allez flasher. Non mais sans déconner. Hein.
Donc
Emmanuel Carsen, Les Héroïques, L-E-S, plus loin H-E. R-O-I-C-S. Ouais, faites-moi plaisir, j'ai besoin de vues pour une production. Non, mais c'est vrai, pour une production.
On relaiera pour Arte.
Je veux pas vous dire mes secrets.
Et Emmanuel, tu peux compter sur nous vraiment, parce qu'en fait, c'est même d'ailleurs.
En fait, parce que j'ai fait un film, et donc j'ai mis des extraits là.
D'accord.
Et voilà, et j'aimerais bien que ça passe dans une émission, et donc je suis pour parler, bref. Et ce serait pour Trax, et voilà.
Et
j'ai besoin de views, ça.
On va essayer de le refaire.
Je suis pas le genre de mec à acheter des views, voilà. J'en parle aux potes, quoi. Donc, les pods, machin.
L'entrepode. Alors, une question, Emmanuel, la première, et puis après, les autres viendront. Question très bateau, vraiment. Donc, pardonne-moi. C'est comment on en vient à faire du doublage? C'est-à-dire, par quelles concours de circonstances, même si je sais que chacun a son parcours propre, mais au moins le tien. Déjà, comment tu y es arrivé?
Parce qu'à chaque fois qu'on me dit ça, ça me fait rire. Alors
bah
que
oui, j'imagine.
Je dis, parce que pour gagner du pognon. Mais la vérité vraie, non. J'ai tourné un jour un film en tant qu'acteur, et il y avait des acteurs italiens, anglais et moi français. Donc on se parlait tous dans une langue étrangère, et allemand aussi. Donc après, il fallait bien mettre tout ça ensemble. Hein. Donc j'ai fait la post-synchro de mon rôle.
Ah oui,
d'accord. Et là, il y avait quelqu'un qui m'a fait faire la post-synchro, donc à ce moment-là, j'étais jeune. Hein. Et après la post-synchro, il m'a dit, vous voulez faire du doublage? Et j'ai fait, bah oui, j'aimerais bien. Et puis voilà.
Voilà, c'est parti.
Mais j'en avais déjà fait avant quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais déjà fait du doublage quand même. Quand j'avais 11-12 ans, je faisais La maison dans la prairie, tu vois, la petite maison dans la prairie.
Ah oui, c'est énorme. Ouais,
non, parce que je fais partie d'une famille de comédiens, donc j'ai toujours été comédien. Et bon, voilà, donc. Voilà, mais j'ai vraiment commencé le doublage avec cette histoire en ayant tourné, et voilà. Et après, avec ce monsieur, j'ai tout fait. J'ai fait Johnny Depp, Brad Pitt, Sean Penn.
Oui, on a parlé tout à l'heure.
Il m'a tout appris.
Brad Pitt dans L'Armée des Douze Singes.
Ouais, mais je l'avais fait avant dans California.
D'accord.
Un film où il vit un serial killer là, avec Juliette Lewis, c'était top. J'avais fait là-dedans déjà.
Et moi, j'ai une question. Du coup, en fait, sur les grands rôles, les grands acteurs, on va dire, type Sean Penn, Brad Pitt, etc. Tu passes donc du coup des castings systématiquement, ou est-ce qu'une fois que le rôle
t'est attribué,
deviens Sean Penn?
Ça dépend si tu couches ou pas. Non, moi, sans déconner, mon cas moi personnel. Sean Penn, ils me font pas de cadeaux, je peux vous dire. Et à chaque fois, je me dis, ils vont me virer. Mais sans déconner, hein. Et j'en ai fait, à part la Warner, ou bon, deux, trois sociétés qui m'imposent systématiquement. Mais autrement, à chaque fois, c'est est-ce qu'il va pouvoir le faire? Bon, ça commence à me gonfler à force.
Ouais.
Ouais, j'en ai fait 30, ça va.
Oui, c'est vrai qu'à un moment, devoir.
30 films, t'as plus envie de. Voilà. Mais ça m'est arrivé de refaire, vraiment des essais, carrément des essais, quoi.
D'accord.
De toute façon, ils vous font faire une bande-annonce. Et ils vous disent rien, mais c'est très vicelard, et en fait, ça sert d'essai, quoi.
D'accord.
Moi, ça, je le sais. Donc, quand je vais faire la bande-annonce,
Faut pas y aller.
Il y en a qui font ça. Moi, non. Moi, je connais trop ce métier, et j'en connais plein qui ont perdu leur acteur parce qu'ils ont fait la bande-annonce comme ça, genre rien à foutre. Bah, ils ont pas fait le film, après.
Quel est l'intérêt pour le diffuseur du film de retenir un autre comédien, au risque de perdre, entre guillemets, le spectateur?
L'attachement
que le spectateur est attaché à la voix.
Mais je suis d'accord avec toi, mais. C'est des petites histoires c'est des histoires. Si le mec il peut te virer et qu'il a personne qui est au-dessus de lui et qui t'aime pas, bah il va tout faire pour te virer, quoi. C'est tout. C'est aussi con que ça.
Histoire de boulot traditionnel.
Et à l'inverse, des fois il y a des gens qui te prennent, mais ça les fait vraiment chier de te prendre parce qu'ils te détestent, mais bon, ils sont bien obligés de te prendre, toi. Voilà, à l'inverse aussi, donc.
Il y a de
la
tout
vie,
finalement,
ça c'est comme la vie, hein, c'est comme tous les autres boulots. Hein.
C'est ça. Oui.
Mais l'ennui, c'est que, sans prétention, c'est même pas sans prétention, c'est que c'est comme le PSG. Avec Sean Penn, si tu veux, moi, le problème, c'est que quand même, j'ai atteint un certain niveau. Et que maintenant, à chaque fois qu'on m'engage, il faut toujours que je sois comme le PSG, quoi. Je sois vraiment au top.
Oui.
Mais je suis un être humain, je suis pas tout le temps, tu vois. Et à chaque fois, les mecs, ils sont là, tout le monde me regarde comme ça, vas-y, attention, c'est lui qui rentre dans le studio.
Oui, cela étant, après, t'as quand même une réputation. Après,
ouais, mais c'est un peu lourd.
Non, mais ton professionnel a guéri quand même.
Ouais, mais c'est un peu lourd à force, je suis comme les autres, je veux dire.
Il y a des jours où on est un peu moins bien.
Voilà, c'est ça, voilà. Et ce côté-là.
Et alors, par rapport au rôle que tu as pu avoir, je vais me tourner vers mes collègues.
Vas-y.
Si vous avez des questions, faites-moi où. Est-ce qu'il y a un rôle dont tu es le plus fier par rapport à d'autres? Est-ce qu'il y a un rôle qui t'a vraiment marqué?
Ouais.
En particulier.
Il y en a deux. Non, il y en a pas mal qui m'ont marqué, en fait. Il y en a pas mal, hein. Mais je resterai sur Sean Penn quand même, parce que bon, c'est lui que j'ai le plus fait. Et le film This Must Be the Place. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Ça ne me dit rien, non.
Ça, c'est un film qui m'a tellement scotché que je voulais arrêter le doublage
Tu vois. Et était-ce le film où Sean Penn joue un peu un rôle de Robert Smith
Exactement. C'est ce film-là. Voilà,
il
est complètement dans les étoiles, et c'est une musique qu'on n'a jamais entendue. Et en fait, si tu écoutes bien ce film, parce que moi je suis musicien, j'ai bien écouté ce film, ils ont fait la musique avant la parole. Et parole, elle est mélangée à la musique, et c'est comme une chanson.
D'accord.
Attends, mais ça, faut aller loin pour entendre ça. Hein. Et donc c'est pour ça, je suis tellement fier de ce doublage, parce que je suis resté dans cette partition totale, et je suis pas parti de cette partition. Et tellement, pour te dire, ça m'a tellement ému, que je te jure, vraiment, je voulais arrêter le doublage ce film.
En disant c'était le summum, je pourrais plus faire.
Je pourrais plus jamais faire un truc aussi top, quoi.
Aboutissement.
Jamais. Et je voulais vraiment arrêter sincèrement. Mais bon, il faut bouffer. Ouais.
Que... et alors, par rapport justement à un comédien qui va préparer son rôle, voilà, Sean Penn qui va préparer son rôle pendant des semaines, des mois, de combien de temps tu disposes, toi, pour t'imprégner du rôle et de temps de préparation, quoi.
Que dalle. Là, j'ai demandé à voir le film. Heureusement, j'ai pu le voir deux, trois fois avant et je me suis mis en condition parce qu'il est super déprimé dans ce film. Donc, je me suis mis en condition pour le doubler. Toi, je me suis déprimé là. Je suis allé habiter dans un appartement qui n'était pas le mien, toi, etc. Je me suis vraiment mis en condition. Mais je serais pas arrivé autrement. Ouais. Tu peux pas arriver. Salut les mecs, bonjour. Je suis déprimé.
Non, effectivement. Non mais
tu peux pas. Tu comprends. Clair.
À part si t'es déprimé.
Tu comprends.
À part si t'es déjà déprimé.
À part si t'es vraiment déprimé. Mais tu peux pas être au fond du gouffre tous les jours.
Si on veut être crédible, oui.
T'as besoin de rester dans ton truc. C'est comme un tournage, en fait. Comme un tournage. Et un des films que j'ai préféré de Sean Penn, et dont je suis fier aussi quand même, il voulait me virer, tu vois, il voulait pas de moi d'ailleurs, c'est Sam, je suis Sam, un attardé mental.
Ah, oui.
Et je suis fier de ce film parce que je suis ému par ce film, il m'émeut, quoi.
Bien sûr.
L'autre, il est taré, c'est vraiment trop bien, quoi.
Après, est-ce que parce que là, moi, il y a quelque chose qui me fascine dans le doublage, c'est que un comédien qui va jouer à l'écran, bon, il va jouer, il va interpréter son personnage, j'ai l'impression que toi, en plus de ça, en plus de ton interprétation, il y a une technique en fait, à choper, puisqu'en même temps, tu dois être en même temps complètement focalisé sur le personnage qui parle. Et je ne sais pas comment ça s'articule dans la tête, d'arriver à la fois être dans l'émotion ou dans le rôle, et en même temps de toujours garder ce suivi de l'articulation.
T'as la technique, si tu veux. La technique, bon, c'est un truc qu'il faut acquérir. Hein, mais une fois que tu as atteint la technique, tu la dépasses. Et une fois que tu as dépassé la technique,
tu es que
dans le sentiment et dans la vérité du comédien. T'es plus freiné par la technique. Et c'est là où tu vois les bons. C'est parce que les bons, et la technique, sont fous. Le mec qui rentre dans le studio, on n'a même pas besoin de regarder ce qu'on dit. Enfin, on regarde comme ça, on s'en fout. Tout de suite, on est dans le film. Les mauvais sont là, ils disent blablabla, blablabla, ils lisent. Et t'entends la différence des gens qui jouent.
Oui, bien sûr.
Point. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas donné à tout le monde, faut pas croire le doublage. Et l'ennui, c'est que tout le monde veut en faire. Alors, bon, ils ouvrent les portes, il y a plein de gens qui en font. Bon, c'est pas terrible. Moi, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous personnellement. Mais c'est dommage, quoi. Parce que c'est un super art, le doublage. Et quand tu fais ça bien, c'est bluffant, quoi.
Bien sûr,
c'est bluffant. Moi, je connais des gens qui ont découvert des films en français. Tu vois, California, par exemple, California. Je m'en rappelle, dans le groupe de rock, il avait une nouvelle nana, mon bassiste, il avait une nouvelle copine, et elle parlait de California. Elle adorait ce film, c'était son film fétiche. Et un jour, je lui dis, moi je suis assez discret dans le doublage. Hein. Je lui dis, tu sais, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Et la nana, elle ne me croyait pas. Non, arrête et tout. Et en fait, après, je me suis dit, elle a découvert ce film en français, si tu veux. Elle l'a revu en VO après, mais. Elle préférait la première fois qu'elle avait vu, c'est normal.
Oui.
On est dans une génération où la VF est hyper importante, quoi. Et les mecs ils ont baigné dans la VF et ils préfèrent limite des fois voir une VF qu'une VO. C'est fou, quoi.
En même temps,
ça dépend, je pense.
Oui, mais il y a des grands exemples. Enfin,
je vois des mômes de 14-15 ans, ils préfèrent les voir une VF, quoi.
Après, on a eu le débat sur Retour vers le futur.
Le doc de Retour vers le futur, je veux dire,
piraté, oui, forcément.
Il a comme marqué.
Luc Hamet qui fait.
Le mec, il marque, quoi.
Il marque.
Dorval sur Rocky, tu vois.
Oui, non, oui. Mais voilà.
Tu te dis,
c'est
une voix qui tue. De Georgie sur Kung Fu. Enfin, moi, je te parle de gens que j'ai rencontrés dans ma vie et que quand j'ai entendu leur voix à côté de moi, je suis resté comme scotché, quoi.
Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, parce que tu travailles dans le milieu. En fait, à la limite, j'aurais tendance à penser que c'était plus un sentiment que nous aurions de se dire waouh, on est à côté de gens et c'est leur voix. Et en fait, tu as quand même, tu gardes quand même un peu cette fascination.
Quand j'étais môme, c'est plus maintenant, parce que j'en ai fait ma vie. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, la première fois que j'ai eu Rocky à côté de moi, j'ai fait un rôle à côté de lui et la première fois qu'il a parlé, bizarre. J'ai même pas pu parler, moi.
Ah ouais?
Je suis resté interdit parce que je me disais, mais elle vient d'où, c'est quoi cette voix, je la connais, mais c'est qui? Parce que t'arrives pas à mettre
des fois,
voix sur, t'arrives pas à faire la jonction, quoi. Et donc après je fais non, ok, pardon, j'ai fait mon rôle. Et à peine j'ai fini, je suis sorti dans le couloir et j'ai fait, les copains, mais c'est qui le mec qui était à côté de moi, c'est qui? M'a fait, mais t'es con, c'est Rocky. Ah mais oui, c'est vrai,
c'est lui.
Et je suis fan, quoi.
Ah ben c'est vrai, fan, que c'est un quoi. Peu. Et effectivement, il y a des voix qui nous marquent. Et c'est là qu'on voit aussi quand les VF sont réussies. C'est quand une voix nous marque et on se dit,
dans un autre contexte, on dit cette voix-là, je la connais mais qui c'est. Et enfin, moi, c'est vrai, c'est des choses qui me turlupinent pendant
fu,
des...
Le mec qui faisait kung fu, quoi. Bon, il est mort, le pauvre. Le gars qui faisait kung fu, moi, j'ai pas, j'ai suivi toute la série.
David Carradine. Ouais.
Tout, toute la série kung fu. Et un jour, j'arrive, je viens faire les feux de l'amour. L'amour. Et le mec m'ouvre et tout, il me parle. Et c'était kung fu, quoi. Ah, il me parle et je fais, mais monsieur, vous êtes toute ma jeunesse, quoi. Je peux vous embrasser. Attends, j'ai pas loupé un épisode.
c'est vrai que ça fait un écho, quoi, dans les.
Bah oui, c'est vrai. Le mec te parle. J'étais dans Kung Fu, moi. Pour moi, c'était lui.
Arnaud, oui, tu avais une question
sur un, on va dire un long métrage classique ou par exemple où tu doubles Sean Penn sur un rôle principal. C'est combien de temps de travail de doublage à peu près moyen un long métrage de ce type-là?
Tu sais, un film, ça se fait en 5 jours, 6 jours. Donc, toi, fonction du plan de travail, ton rôle, le rôle principal, en fonction de tes disponibilités aussi. Mais en fait, tu vas le faire en 3 jours. Allez, 3 jours et demi.
Et t'as pas une vraie difficulté à passer de alors encore une fois, d'un stade émotionnel à un autre par rapport à l'évolution d'un personnage concentré sur 3 jours? Non, c'est là aussi, là encore, c'est des états dans lesquels tu te mets et hop, c'est parti.
Ouais, t'es dans ton personnage et dans la situation du film. Donc ils peuvent commencer par le début, la fin, le milieu et tout. Ça se regarde pas, tu dois être dedans. Ton boulot, c'est de. Tu fais la. T'entends, tu fais. Voilà.
Et c'est là où je suis assez admiratif de justement du fait qu'un l'acteur lui a eu des mois de préparation et toi tu dois retrouver cette intensité là dans des conditions qui sont
les conditions de studio, tu l'as plus ou moins.
C'est vrai.
T'as plus ou moins évoqué.
C'est pas toi en plus. En plus t'as la technique en plus.
Oui, parce qu'il faut que
plus,
ça.
C'est pas toi. T'as un dédoublement de personnalité. Ouais. T'as la technique en plus et tu dois donner le même jeu.
C'est
en fait, c'est un métier de dingue.
En fait, c'est un peu ça.
Mais pourquoi tu bosses toujours là-dedans?
C'est un truc de fou.
Pour rebondir sur ce que dit Arnaud, c'est effectivement, il y a la préparation et puis il y a le contexte. C'est-à-dire que des acteurs vont se donner la réplique dehors, dans un canapé. Alors que toi, tu vas être derrière ta barre à lire un texte qui défile. Et à donner l'impression que tu es assis dans un canapé en extérieur. Et comment ça se fait, les dialogues? Vous enregistrez partie par partie ou vous êtes plusieurs à vous répondre en live ou est-ce que c'est chacun qui fait sa partie en post-prod? Ou est-ce qu'il y a un peu du jeu d'acteur entre vous
Maintenant, je vais te dire un truc très triste. Bon, la plupart du temps, on essaie de mettre les gens quand même ensemble pour qu'ils se répondent.
Oui.
Ça va plus vite
ça
déjà. Plus et puis vivant. Quand tu te parles, c'est quand même... Mais bon, maintenant, c'est la crise. Il y a les charges sociales. Il y a tout ça. Quand tu prends un acteur, tu lui payes le déplacement, les charges sociales. Donc si tu le prends plusieurs jours, tu vas payer plusieurs charges sociales. Merci. Donc maintenant, non. Moi, là, par exemple, j'ai fait une série. On m'a pris une journée. J'ai fait les 15 épisodes tout seul.
D'accord. Ah ouais.
Mais attends, c'est super triste. Déjà, j'ai gagné plus de pognon ce jour-là, c'est sûr. En fait, moins que si j'étais venu 15 fois au studio.
Oui.
Et puis, au niveau des acédiques de Pôle emploi, ça m'a fait un cachet, pas 15. Tout est rétréci comme ça.
D'accord.
Dans le côté artistique, tu parles à un mur. Tu parles à un mur. Alors, ça met encore une difficulté supplémentaire. Tu te faisais chier à doubler un mec. déjà, c'est pas toi. Faut jouer bien. Tu vois pas le truc avant. Ouais, tu dois être en situation tout de suite et tout. Et en plus, maintenant, tu dois. Mais il est pas là, ma partenaire. Je dois lui dire je t'aime et tout. Non, tu dis ça à personne. Un mur.
Je peux pas la toucher.
Voilà.
C'est vrai que pour l'immersion,
mais
c'est pas facile.
Oui, mais je les comprends aussi. Ça leur fait gagner de l'argent, tu vois. Donc, alors, il y en a qui disent, tu dois gagner vachement d'argent et tout. Tu vois, Walking Dead, j'y vais, je fais 4 épisodes. Je vais dans un jour, je fais 4 épisodes. Je vais dans un autre jour, je fais 4 épisodes. Au revoir, c'est terminé.
Ah oui. Et pour une série comme The Walking Dead, où justement.
Il parle pas, le mien.
Oui, il parle pas beaucoup. Il a assez taiseux, ça va.
Il est même 1 heure, c'est bon.
Mais tout à l'heure, vous avez déjà commencé à répondre à des questions dans la salle. Et on évoquait le côté pouvoir se référer à l'œuvre originelle, etc. Daryl de Walking Dead n'est pas dans la BD.
Ah ouais, non.
Donc, comment on arrive à capter l'essence de ce personnage, contrairement aux autres qui, eux, ont un peu un background, etc., et qu'on peut un peu...
Oui, mais attends,
celui-ci, il n'y a pas de particularité.
C'est des conneries, ça. Ils diront ce qu'ils veulent, mais personne ne fait de travail à la table avant. tout le monde s'en fout. Ça fait partie de notre boulot. Tu sais jamais qui tu vas doubler. T'arrives, tu ouvres la porte du studio, tu te vois, c'est lequel que je fais, on te dit, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là.
D'accord.
Voilà. Point. Et puis là, en 2 minutes, tu dois... savoir tout dans l'image.
Ça fait partie des automatismes, en fait, voilà.
Alors, des fois, tu vas un peu plus loin, si c'est ton rôle le plus important, tu vas dire, il fait quoi dans la vie? Il est garagiste, avocat, enfin bon. Mais oui, tu sais très vite, tu vois la façon dont l'acteur joue, tu sais le rôle qu'il a.
Donc si j'entends bien, tu as une démarche totalement différente entre un long métrage et de la série ou
complètement. Quoique maintenant non, parce que le long métrage c'est pareil maintenant à cause d'internet et tout ça, on te les montre même plus les films. T'as plus le droit d'avoir des projections maintenant.
Et donc tu le découvres au moment
exactement,
où tu le
découvres. Moi, Gunman, je suis arrivé, je savais même pas ce que c'était.
Ah oui.
Tu veux que je te dise? Et on t'explique tellement pas de choses qu'à un moment dans Gunman il dit salut Annie. Salut Annie en laissant sa mitraillette. On m'avait tellement rien dit, tellement rien expliqué, tellement que dalle, que moi je croyais qu'il disait salut Annie, que c'était sa mitraillette, qu'est-ce qu'il appelait Annie.
Ouais.
Je vous le jure que c'est vrai.
Ouais, non, mais ça...
Et si t'entends la version dans le film, j'ai enregistré comme ça. Évidemment, on m'a rien dit. C'est de ma faute, hein, moi.
Non, mais c'est vrai.
J'arrive, on me dit, tiens, tu fais cette scène. Bon, d'accord. Bonjour le respect, d'accord, ok, ouais. D'accord. Bon, je fais cette scène. Okay. Il voulait pas de moi, il voulait me virer. Donc, bon,
ouais.
Bon.
Ouais, c'est vrai, ça.
Ok, je fais cette scène. Et la première scène, c'est le mec, il est là, il pose son gun, il fait « Salut Annie !» et il s'en va. Moi, j'ai cru que c'était ça. Non, mais j'ai honte de dire ça.
C'est
drôle quand il poste. Moi, j'ai pas osé poser de questions pour pas faire chier, tu vois. Donc, j'ai fait « Salut Annie !» en pensant à lui. Et quand j'ai fait le film après et que je l'ai vu, le film dans sa totalité, une fois terminé, j'ai fait « Oh, la
Annie !»
C'était la nana dont il était amoureux, qu'il avait laissé tomber et tout. Oh là 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 là, la honte quoi. Mais heureusement, je l'ai dit bien neutre. Tu vois, parce que,
finalement, ouais. C'est passé. Et du coup, il y a pas un directeur artistique qui est là quand même pour un peu orienter aussi quand même. Je pense, parce que
bien sûr. Bah, chacun fait son boulot ou pas.
Ouais,
hein,
oui, non mais
pas
voilà.
Passer
voilà.
Du sucre, enfin voilà. Hein.
Oui, Ludo.
Juste une question, c'est tout à l'heure tu m'as fait marrer quand on te posait une question, tu as dit de toute façon ils m'ont pris parce que finalement. Bon, il y avait que toi,
personne d'autre. Justement, le personnage de nain noir.
Du coup, ma question, c'est sais-tu, par ailleurs, en creux, pourquoi on te prend, par contre ? Est-ce qu'il y a des choses.
Quand on te choisit,
quand on te choisit, il y a quand même des caractéristiques vocales. Enfin, il y a...
Tu sais, je pense que la plupart du temps, on te prend parce qu'ils sont pas tellement. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination, donc ils te prennent. Dans des rôles qui savent que t'as déjà fait ou t'excelles.
Ah oui, tu veux dire que c'est
ça. Ils ont pas beaucoup d'imagination.
Peu de prise de risque, ouais.
Très peu, donc tu fais souvent la même chose. Moi, je fais toujours des tueurs, les psychopathes, les drogués, les junks. Toujours les mêmes rôles, tu vois.
Ça s'entend.
Tellement que dans ils ont à TF1, ils m'ont viré. Ils ont dit, faut plus le prendre parce que quand il arrive dans Criminal Mind, dès qu'il fait un mec qui parle, on sait que c'est bon. Mais non, mais autrement, bon, je sais pas comment ils choisissent eux et tout, tu vois. Mais là, je commence à diriger des films moi-même et tout.
Tu es directeur artistique,
en fait, je m'aperçois, c'est des espèces de flashs visuels qui deviennent.
D'accord.
Parce que je connais les gens et t'as une espèce de flash.
Oui, parce
mais maintenant, il y en a beaucoup qui marchent aussi au copinage.
Oui.
Au Disney,
le réseau et tout. J'imagine que c'est de toute façon comme partout. Tu as de toute façon.
Moi, je mange pas de ce pain-là.
D'accord.
Merneau.
Oui, comme tu précisais tout à l'heure, comédien qui fait du doublage, c'est bien ça la terminologie.
Voilà.
Quelle est la part qu'occupe le doublage dans ton temps de comédien ?
Bah écoute, moi maintenant, avec le temps, ça en occupe la plupart du temps.
Oui.
La plupart du temps, moi j'en ai fait vraiment ma vie, quoi, tu vois. Je n'ai plus d'ambition. Hein. Pff, voilà.
Du coup, c'est un choix. Là,
ma vie, c'est un choix. Ouais. Puis c'est pas ça. C'est
même
pas ça.
C'est que
je m'éclate, j'aime ça. Oui. Vraiment, j'aime ça. Quoi. Si je n'aimais plus ça, j'arrêterais. Quoi. Vraiment, totalement.
Oui.
Mais j'adore le studio. Quoi. Moi, je suis un musicien. Ouais. J'ai toujours aimé dans le studio en musique. J'adore les studios, l'odeur. J'aime les studios. Quoi. Et même des fois, j'ai la tête dans le. Comme ça, j'ai pas envie de travailler à rien. J'arrive, il est 9 du mat, il pleut, il fait froid et tout. J'ai pas du tout envie, je rentre dans le studio
et c'est parti.
Et tout de suite, j'ai envie de travailler, quoi.
Ouais,
parce qu'en plus, ça s'appelle jouer, hein.
Oui.
On joue la comédie, le mec il se plaint, excuse-moi, ça va vraiment être crétin.
C'est vraiment, tu
on joue, quoi. On vient là pour jouer, quoi. Et donc, comme vous aimez ce que vous faites, bon, bah. T'as vu, dans n'importe quelle circonstance, tu seras quand même content de parler dans ton micro.
Exactement.
Si t'as bossé toute la journée, tu vas prendre le micro le soir et tu seras content de faire ton émission avec tes potes. Voilà. C'est pareil, hein. C'est exactement pareil. On est passionné, quoi. Faut pas faire ça pour le pognon. Hein. Moi, je dis toujours que je le fais pour le pognon, mais en fait, non. Si, parce que ça permet de bouffer ça.
Oui, mais c'est pas le seul moteur, c'est pas le carburant.
Moteur, voilà, c'est pas le moteur. Non, non.
Et c'est une question, moi, que j'ai commencé à. Enfin, qu'on avait évoqué un peu tout à l'heure avec Ludo. Je suis pas un grand adepte des versions françaises.
Mais
clairement.
Je comprends, bien sûr. Pourquoi
et,
pas
alors. Depuis quelques années, parce qu'effectivement, comme on en parlait, il y a un peu la Madeleine de Proust de tout ce qu'on a regardé quand on était gamin. On parlait de Retour vers le futur, mais beaucoup de films des années 80 que j'ai regardé, découvert Rocky, Predator, Les voix de Schwarzenegger, etc. Maintenant, j'ai du mal à entendre les originales. Par contre, c'est vrai que depuis les années 2000, avec l'avènement d'Internet et la possibilité de regarder en original, j'ai un peu de mal. Mais c'est vrai que du coup, on rend pas hommage à votre travail, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour inciter les gens justement à revenir vers la VF, si t'as envie d'inciter les gens à revenir vers la VF plutôt qu'à regarder la VO, ou est-ce que considères que ça fait partie de l'ère actuelle, chacun fait son choix et puis il y en a pas un qui est mieux que l'autre, ou il y a pas de...
Moi, je vais te dire sincèrement mon avis, la VF devrait pas exister.
D'accord.
Ça devrait pas exister, la VF. On devrait tous être intelligents et pas. C'est une honte, c'est une hérésie, en fait. La version française, c'est une hérésie. Hein, voilà.
Le doublage en général.
Bah oui, le doublage, c'est une hérésie. Faut pas déconner. Ça devrait pas exister. Mais bon, maintenant, on n'est pas tous allés à l'école. On n'a pas tous appris à parler anglais, machin, etc. Donc, ça aide beaucoup les gens. Mmh. Donc, bon, on a créé ce truc-là. Autant bien le faire.
Voilà.
Et autant bien le faire, puisque c'est créé comme top. Et que ça aide des gens. Il y a des gens, voilà, ils
ça
écoutent.
Ça permet d'avoir accès.
À des tas de gens qui peuvent pas, parce qu'ils connaissent pas les langues et tout. Donc, bon, ok. Je me mélange, là. Je suis fatigué. Mais normalement, je te dis, ça devrait pas exister. Et je pense qu'à long terme, le doublage n'existera plus.
D'accord.
Voilà, je pense que peut-être pas la génération prochaine, mais après celle d'après, ça existera plus, le doublage. Je pense franchement, parce que tous les mots, ils parleront couramment.
Alors ça, c'est pour l'anglais, mais il y a des films aussi en allemand, par exemple, ou en...
Ça sera sous-titré. Ça sera sous-titré.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ils regarderont les sous-titres. Enfin, je pense que ça va tendre à disparaître, le doublage.
D'accord.
Je pense. Ouais, d'ici un bout de temps. Ouais. Et puis autrement. Tu disais de la reconnaissance. Faut pas se métier pour la reconnaissance. Il y en a, ils se la pètent et tout, mais c'est un métier de l'ombre. Si tu choisis de faire ce métier,
c'est pas pour être sur le devant de la
scène. Voilà, et c'est pour ça que ça m'énerve. Ouais, moi je l'aurais pas joué comme ça, mais on s'en fout comment tu l'aurais joué. Tu la joues comme le mec le joue, quoi.
Oui.
Si toi tu veux exister, moi j'ai tourné des films, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des concerts de rock. Je suis pas frustré, quoi, de la lumière, quoi.
D'accord.
C'est un vrai choix d'être dans l'ombre. Mais t'as des gens, ils sont dans l'ombre, ça les fait chier, ils préfèrent être dans la lumière. Va dans la lumière, nous fais pas chier, quoi.
Voilà. Ouais, non, mais effectivement.
Ce que je veux dire, et donc on n'a pas besoin de reconnaissance. Au contraire, quand on ne sait pas que c'est nous, c'est mieux.
C'est le mieux, c'est là qu'on a réussi son travail.
Moi,
quoi.
Ma mère,
c'est...
quand elle me parle d'un film, elle me parle du personnage, elle me parle du rôle et tout, mais jamais elle me parle du doublage. Et c'est là où je me dis, j'ai fait.
Et dans ce cas-là, c'est qu'on a bien bossé, ouais.
Et même moi, je vois un film en français, le film commence, c'est mon meilleur pote. Je fais, merde, c'est lui. Mais au bout de 5 minutes, j'ai oublié que c'était mon pote. Je vois le film. Et je découvre, je lui téléphone après, je lui fais, vieux, merci, j'ai vu un film grâce à toi, sympa et tout. Voilà.
Ça me rappelle le spectacle d'Arnaud que j'ai vu la semaine dernière.
Voilà. C'est ton pote et tu l'oublies. C'est fantastique quand même, non? Ça veut dire qu'il fait bien son boulot.
Exactement.
Il fait bien. Et en plus, on ne doit pas te reconnaître dans le doublage. Mmh. Des fois, tu parles comme ça, il y a plein de tas de trucs, tu m'as entendu, c'est même pas que ça.
Exactement.
C'est
non, mais c'est sûr.
Parce que tu te mets en fonction du gars que tu
dis. Faut que ça corresponde à la personne et que ça soit pas un faire-valoir.
Et magiquement, de toute façon, ta voix change.
Bien sûr.
Tu te mets dans l'image et ta voix change.
Tu rentres dans les pas de celui que tu doubles.
Tu sais pas pourquoi ta voix elle diffère, quoi. C'est ça qui est chouette, quoi.
Et ça donne quoi? Parce que c'est une dédicace pour Marius qui est là à la table.
Et Marius. Mon grand-père, il s'appelait Marius. C'est vrai.
Leonardo.
Leonardo Ninja,
c'est mon Dieu, c'est un truc.
Ouais, mais attends, il y en a eu plein de Leonardo. Il y en a eu plein de Leonardo des Tortues Ninja. Je crois qu'il n'a jamais eu la même voix. Non, mais c'est vrai. Ça s'est fait dans plein de sociétés différentes. Il y a eu des séries télé, des films ciné, des séries télé. Je sais que j'ai fait ça un moment à la Sophie, super longtemps, dans une boîte. Pendant 3-4 ans, j'ai fait des Tortues Ninja. Donc après, j'ai fait ça, Leonardo. Mais c'est tout, tu vois.
T'as pas fait Leonardo ?
Non. J'ai fait Pampan dans Bambi.
C'est pas mal,
ça,
c'est vrai
ça. Pampan dans Bambi, ça, je suis super fier. Vous voulez l'anecdote ? Ça va les faire rire.
Vas-y.
C'est vrai, hein. On me demande de passer des essais pour Pampan dans Bambi. J'y vais, attends, super, hein, le lapin.
Mais tu avais quel âge ?
Oh, j'ai reçu un bout de temps déjà. Il y a bien 10-15 ans, là, quand même. Hein, de ça. Parce qu'ils ont refait le doublage.
Ils ont refait la
nouvelle mouture. Ils ont fait des petits au départ et des adultes après. Donc, ils font les essais pour Pampan, adultes. Donc, voilà, grosse affaire, Walt Disney, ça. Je viens faire les essais et tout, c'est à toi, non, j'y vais dans le noir et tout, grand studio. Hein. Moi j'écoute, le lapin il se marre, donc je fais et je me marre. Hein. Et là ça s'arrête et j'entends une voix dans le noir derrière qui fait non, ça va pas du tout, ça rigole pas comme ça un lapin. et alors je m'arrête, mais interloqué, tu vois, je fais lumière. Et je vais voir mon directeur, je fais, attends, mais c'est qui cette connasse là? Comment elle peut savoir comment ça rit un lapin? Non, mais attends, on n'a jamais vu un lapin rire. Et là, le mec se lève, me prend à part, il me sort du studio, il me fait, Emmanuel, c'est la cliente.
Oh,
c'était la cliente Disney, quoi. Et j'ai dit, connasse là, c'est qui cette connasse là? parce que j'étais un peu voyou à l'époque, tu vois. Je faisais du rock, je t'ai dit, je faisais du rock, moi. C'est pour ça que j'ai fait Sean Penn, d'ailleurs.
Ouais. Et on voit le foulard tête de mort, là.
Ouais, tu vois. Hein, et en fait, elle était pas si con, la cliente, elle m'a pris sur Pampan dans Bambi.
D'accord.
Elle était pas
comme quoi, elle était prendre le recul. Voilà.
Elle était intelligente, tu vois. Elle a pas été stupide. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Hein. Pourtant, j'avais 30 lignes, hein. J'ai gagné rien du tout. Hein. J'ai rempli le frigo, c'est tout.
Ouais,
mais c'est j'ai fait pampan. Et maintenant, c'est une
carte de visite.
J'ai une petite fille, tu vois. Quand elle s'est retrouvée à l'école, quand leur ami Bambi et tout, elle a fait « Ah, c'est mon père !»
C'est mon père.
T'imagines la lue, quoi.
Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des acteurs que tu as aimés, pampan, tout ça?
Et rigole comment dans la vraie vie?
Non, j'ai rencontré Sean Penn. J'ai rencontré Sean Penn. Super rencontre. Il est arrivé vers moi, il m'a fait « Hey man !» Et j'ai fait « Hey man !» Qu'est-ce que tu veux faire ?
Non,
on a fait tac. Et il y a une photo qui existe,
c'est
d'ailleurs,
cool.
Qui est sur Internet et tout, de notre rencontre.
Oh, c'est génial. Alors,
c'est une nana qui était là, il y avait des trucs Kodak, c'est publicité, il y avait des appareils photo partout. Et une nana sympa, intelligemment, qui a pris une clef, qui a fait ça. Et après, elle me l'a dit, j'ai fait « Putain, tu me donnes l'appareil !»
C'est
des choses sympas, quoi.
Est-ce que tu as des projets en fait là maintenant ou des choses dont tu peux parler pour conclure cette dernière conclusion, voilà, est-ce qu'il y a
des projets j'ai Walking Dead
qui continue
là, je fais la nouvelle saison là, donc j'ai attaqué donc la semaine prochaine je fais Walking Dead. Je viens de faire un film en tant que directeur artistique.
D'accord.
Mon premier pour une grosse société. Donc je viens de rendre ma copie là hier. C'est pour
là,
ça que je suis crevé. Je viens de rendre ma copie comme on dit et donc maintenant j'attends qui voit la qualité de mon travail et j'espère bien qu'il m'en donne un dans 15 jours.
Franchement,
ça me plaît bien.
On peut savoir quel film ?
Oh, c'est un film vraiment pas terrible. Sealed with a Kiss, a Country Wedding. Il y a un mec qui joue de la guitare, qui chante dedans, il y a des chansons et tout. Non, mais c'est pas mal.
C'est
un téléfilm américain pour M6, enfin, tu vois.
Ouais.
Mais bien propre, il joue bien, enfin, tout est dedans. Non,
du coup, c'est parti.
Puis on n'a pas jugé le produit. Enfin, c'est sûr que j'irai. Oh si, bien bourré, ça passe.
Même en VO.
Ouais, et puis mes projets, autrement, Moi, je sais pas trop.
La musique
Zero, les Heroix. Voilà, faut les cliquer sur YouTube.
Bah, bon, il y a mon film. Ouais, mais il y a mon film de vendre mon film. Ouais, c'est sûr. J'ai fait ce film-là et... c'est vrai que je ne l'ai pas vendu encore et j'aimerais bien vendre mon film, ouais, c'est sûr. Je compte faire une grosse fête à Paris.
Tu nous en dis deux mots sur ton film pour.
Oui, nous donner un peu le point. Si c'est possible.
Si c'est possible.
Il y a des extraits donc, sur YouTube, je vous ai dit. C'est un film qui s'appelle The Flesh of the Gods. C'est dure 1h30. Et c'est sur l'ascension et la descente d'un petit groupe de rock dans les années. Fin des années 80. Et c'est que des images de l'époque. Que des images d'archives.
Ah, d'accord. Okay.
Et c'est très émouvant parce que. Tous ces gens-là, à l'époque, ils étaient filmés, ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés.
D'accord. Donc, il y a une spontanéité.
Il y a une vérité dans ce film totale. Il y a même des acteurs qui sont vrais, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'il y a plein de gens qui sont morts dans ce film.
D'accord.
Ouais, dans les loges, où on les voit déconner et tout, ils ne savaient pas. Hein. C'est des années quand même, sida, ouais, machin et tout. Hein. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire ce film, personnellement, parce que... j'ai mis 3 ans à le faire parce que j'étais trop ému, j'arrivais pas à monter ces images parce que c'était des mecs qui étaient morts, quoi, qui étaient mes potes quand même. Ouais. Et ça a été vachement douloureux à faire, mais maintenant avec le temps, je suis super content que ce film existe parce qu'il fait exister toute une génération.
C'est un témoignage en fait.
Tout un témoignage de la fin des années 80, entre 88 et 93, tu vois. C'est une époque un peu charnière à Paris. Tout est à Paris, quoi, où il y a 2-3 festivals en province, mais c'est la plupart c'est à Paris. Et en fait, ça raconte rien. Il y a pas de, c'est pas. Je voulais faire un commentaire et tout. J'ai pas fait de commentaire. J'ai juste sous-titré les paroles de chansons. C'est tout.
D'accord.
Et j'ai laissé ça comme ça. Ça dure 1h30. Les gens regardent. Ils commencent. Et une heure et demie après, ils sont encore comme ça, tu vois. Et ils finissent comme ça, tu vois. Voilà.
Bah, écoute,
tu
l'as bien vendu en tout cas.
J'ai aimé ce film, vraiment.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro.
Ouais. C'est moi les iPod.
L'entrepod, mais c'est pas grave.
Faut prendre le flyer.
On va trouver un truc à Paris qui s'appelle l'entrepôt.
Ah.
Vous devrez vous mettre en contact avec eux parce qu'ils font que des films, des pièces de théâtre, des artistes et tout. C'est très connu dans le 14e. Ils sont très cool et tout. l'entrepôt, Entrepode. Moi, si j'étais vous, je ferais un lien avec eux. Lien.
À Rouen, il y a un entrepôt, mais c'est un magasin de meubles.
Alors qu'à Paris, à fond, ici, ils font resto, trucs d'artistes, salle de ciné.
Ça pourrait être rigolo, remarque.
C'est bon à savoir.
Entrepôt, Entrepode, vous pouvez faire une petite émission avec la technique actuelle. Et je suis sûr qu'il sera très content.
Merci pour le tuyau. Merci pour le tuyau. Et puis, merci pour ta venue et ta disponibilité. Et puis, bonne journée.
Bye bye, Rouen.
Merci. Au revoir.
Eh les gars, c'est Daryl. C'est Daryl qui vous parle. Eh, faites gaffe. Faites gaffe en ce moment. Sortez pas trop dans la rue. Restez chez vous. Non mais ça craint quoi. Salut les mecs. À plus tard.
Nickel. Génial. Et maintenant, on reçoit donc Laura. Laura Zichy.
Non,
j'écorche
pas
le nom, Laura.
Non, pas du tout.
Tout
c'est,
bien.
C'est très facile. C'est comme l'eau de Vichy, mais avec un Z. Voilà. Ça a l'air très compliqué parce qu'il y a plein de lettres compliquées, mais en fait, c'est très simple.
Alors voilà. Et donc, Laura, tu es ici aujourd'hui. Alors, pour un rôle quand même qui en marque en tout cas plus d'un à la télé puisque tu incarnes Michonne dans la série The Walking Dead et alors ça me faisait rigoler parce que le rôle de Michonne mais tu n'as pas fait que Michonne mon Dieu
non,
heureusement parce
que non surtout difficile. Que Michonne n'est pas très très bavarde mais
oui
très
c'est
présente,
elle utilise beaucoup le sabre en fait Michonne
elle a d'autres moyens d'expression
voilà tout à fait
et donc en fait tu as une carrière assez fournie à la fois dans le doublage mais pas seulement effectivement parce que tu es comédienne
oui avant tout. Mais de toute façon, pour faire du doublage, il faut avant tout être comédien. C'est beaucoup de gens se trompent en pensant qu'il suffit d'avoir une voix intéressante, une jolie voix ou je ne sais quoi. Il faut vraiment incarner ce qu'on fait. Et c'est vrai que le doublage est une infime partie, une partie de nombreuses activités que peuvent faire les comédiens. Tu vois, tu en as qui tournent, qui font du théâtre, qui font du doublage, voilà, qui font tout en même temps.
Qui font tout en même temps.
Ouais.
Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, en fait, comment tu en es arrivé, comment tu es arrivé à faire du doublage,
à devenir noir avec un sabre.
Et comment tu es arrivé à devenir noir avec un sabre et surtout incarner un paquet de guerrières.
Exactement. C'est vrai qu'en général, je fais rarement les princesses.
Ce qui nous laisse à penser que tu es adepte donc de sport, d'arts martiaux, de combat.
Il faut bien se mettre en condition. Hein.
Tous les matins, enfin, qu'est-ce que vous croyez
mais rien du tout.
non, mais en fait, je jouais au théâtre et j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui dirigeaient en doublage. Et comme beaucoup de comédiens, d'artistes, on a des hauts et des bas. Et j'ai eu une période où je travaillais pas énormément. Ouais. Et l'un de mes partenaires m'a dit mais va voir Vincent Violette,
d'accord,
qui dirigeait et qui était l'un de mes partenaires d'un misanthrope, donc rien à voir avec avec Walking Dead. Et j'ai commencé comme ça. J'ai fait mes premiers cachets avec Vincent. Et très rapidement, je me suis retrouvée sur une série qui s'appelait Undo Stress.
Oui, oh là là, dommage.
Voilà.
Dommage que ne soit pas là.
Absolument, absolument.
Elle adore ça.
J'ai fait les 6 saisons.
Avec être à l'heure, c'est tout.
Stress. Voilà, dans le rôle de Louisa, qui était un personnage assez taiseux aussi, malheureusement. mais c'était pas mal à l'époque parce que je débutais, donc j'avais un peu plus le trac. Exactement. Et je me souviens très bien de ma plus longue réplique de Louisa.
En direct live, juste pour nous.
Exactement, pour rien que pour vous, parce que cette réplique est quand même cultissime. Un des personnages a un bébé et venait montrer son bébé. Et Louisa arrive, regarde le bébé et fait « Ouais, bof, il a le crâne plat ». Voilà, c'était une de mes plus longues répliques de Louisa.
Effectivement, ouais.
Et pourtant, elle a fait les 6 saisons. Hein. J'avais à peu près toujours 1, 2, 3 mots. Undo Stress. Et j'ai enchaîné sur Galactica.
D'accord, oui, voilà, exactement.
Personnage aussi assez cultissime.
Quel personnage dans Battlestar Galactica?
Ellen Tai. Ellen Tai, alcoolique, nymphomane.
La femme du lieutenant-colonel
voilà,
Tai.
Exactement.
Enfin, on ne dévoilera pas plus ici.
Non,
mais...
parce que là, voilà, c'est assez. Et donc, Galactica, puis après, plein d'autres choses.
Ils se sont enchaînés au fur et à mesure.
Oui, ce qui est bien, c'est que très rapidement, quand tu as de la chance, parce que parfois ça n'arrive pas, tu retrouves tes comédiennes. Donc j'ai doublé une comédienne dans un film qui s'appelait Mr. Brook, Elle était l'avocate de Demi Moore.
D'accord.
Et c'est une comédienne que j'ai énormément retrouvée après dans Under the Dome, dans Détroit 1-8-7. Je l'ai faite aussi dans des petits guests, ce qu'on appelle les guests, c'est-à-dire quand tu viens faire un épisode d'une série.
D'accord.
Et je l'ai faite aussi dans Desperate Housewives où elle faisait deux épisodes. Et voilà, je l'ai suivie régulièrement. Et Danai Gurira, qui est donc la comédienne qui joue Michonne.
Bah oui.
Je l'avais doublée dans un film de Wes Craven.
Lequel? Tu te souviens, non?
Honteux. Je me doutais bien que tu allais me piéger ainsi. C'est
son rôle d'être le piégeur.
Un pervers.
Pardon, je l'en ferai plus.
Pardon, Wes.
C'est à son âme.
Voilà, mais il est mort? Non,
il est mort.
Il est mort il y a un mois ou deux.
Cette année,
ouais. Honte à moi à nouveau. Pourtant, Dieu sait que je l'aime, cet homme-là, ouais. Étant donné que grâce à lui, j'ai...
Exactement.
En fait, c'est Benoît Dupac qui dirigeait ce film-là et qui dirige Walking Dead. Donc, quand elle est arrivée sur Walking Dead, il m'a dit, écoute...
Tu as
un rôle dans ma série.
Alors donc tu suis régulièrement. Pardon, je me tourne vers mes camarades pour
dire. Ludo, tes questions sont fort pertinentes. On n'a rien à dire en fait.
Non, je les déteste ces questions. C'est n'importe quoi cette histoire.
Et donc je disais donc tu as enchaîné par des séries et puis aussi des rôles dans des films.
Oui.
Est-ce que tu suis donc tu me disais tu suis des comédiennes. C'est quelque chose qui est assez rare d'arriver à conserver un comédien entre guillemets sur le long terme ou en règle générale. Finalement, ça change quand même pas mal.
Ça dépend. Effectivement, quand on retrouve des comédiens, on est content. On est très, très content. Alors, tout dépend de la notoriété aussi du film ou de la série dans lequel on l'a doublé. C'est vrai qu'a priori, je me dis que cette comédienne-là, donc Danai Gurira, j'ai des chances de la garder après parce que Walking Dead. En revanche, quand tu doubles des comédiens ou comédiens, enfin des comédiennes, pour ma part, je fais pas encore les hommes, mais je devrais peut-être m'y mettre parce qu'il y a plus de rôles.
Il y a plus de rôles en fait, largement.
Ça n'a rien à voir.
Et des fois, les femmes doublent pas aussi les enfants ou ça
si,
arrive
pour si, les moi, moins. Animés.
Oui,
moi,
d'accord.
Moins. Parce que... Moi, je suis ridicule sur les enfants.
Ah bon. Ok, je retire ma question.
on parlait tout à l'heure de ce qui est des caractéristiques qui peuvent être, ou des, je sais pas, des traits particuliers qui peuvent être attendus chez un comédien pour certains rôles. Donc toi tu sais que on vient te chercher pour certains traits caractéristiques de ta voix.
Ouais, souvent de la voix, de l'énergie, et en même temps parfois t'as des surprises. Je me souviens par exemple de Perrette Pradier qui malheureusement n'est plus là, qui m'appelle un jour, on me dit ouais Laura, j'ai un rôle pour toi. Bon, ok, j'étais super contente parce que c'est quand même une très 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 grande dame, et j'arrive, je savais absolument pas ce que je venais faire. Et en fait, je découvre à l'image, à l'écran, une petite blonde qui saute partout. Je me dis, mon Dieu. Et en fait, en la regardant, je me dis, ouais, c'est tout à fait possible. Vocalement, elle n'est pas beaucoup plus légère que moi. Et surtout, on a la même énergie.
Ah oui.
Tu vois, c'est vraiment après.
Ça se joue là-dessus aussi.
Oui, c'est vraiment. C'est dans l'œil. Hein. Tout se passe dans l'œil. C'est dans l'œil que tu
choques les choses. Si on arrive à se revoir, à se voir dans le personnage qu'on va
doubler. Complètement. C'est vraiment une énergie. Et on parlait tout à l'heure de Galactica. Kate Vernon, qui est la comédienne que je doublais là-dedans, est probablement l'une de celles qui me pose le plus de problèmes.
Parce que très posée, peut-être, justement. Très froide aussi, peut-être.
Posée et en même temps pleine de mimiques. Très américaine.
Oui.
Et donc remplir ça alors qu'on nous on est français et on n'a pas forcément ces mimiques là dans la vie, c'est très difficile. Elle en a beaucoup. Je l'ai retrouvée dans Heroes, je l'ai retrouvée dans un autre film un peu qui se passait dans l'espace aussi où elle jouait la matriarche. Très particulière et c'est pas évident à faire. Elle, en général, quand je la vois, je fais oula, dans les sangs aussi, ouais. je l'ai retrouvée.
D'accord.
Et c'est vraiment une histoire d'énergie et de,
ouais,
de mimique.
Tu faisais une remarque tout à l'heure que je trouvais très intéressante, c'est tu parlais des mauvais comédiens à la base.
Remettre dans le contexte, quand il y avait les questions-réponses tout à l'heure, c'était très dur de doubler un mauvais comédien.
J'ai trouvé ça très intéressant ce que tu disais.
C'est redoutable.
Avec cette histoire de respiration, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les.
C'est toujours pareil. Nous, on recherche absolument le plus possible la sincérité. Guillaume parlait tout à l'heure, Guillaume Orsa qui est là aussi, parlait de Days. J'ai aussi travaillé sur Days et j'avais une comédienne qui s'est a priori beaucoup inspirée de l'expressionnisme allemand pour jouer.
Donc un jeu très
oh là là, avec des gros yeux, une grosse bouche, tout était extrême. Mais même d'accord. Je vais chercher mes pantoufles sous mon lit, c'était. Et là, pour arriver à remplir ça et être sincère, parce que tu la vois avec sa grosse bouche et ses gros yeux, et du coup, toi, tu dois essayer d'amener de la vérité là-dedans. Parfois, elle va avoir des soupirs qui n'en finissent pas, qui sont absolument pas vrais, tu vois.
Ah, c'est terrible.
Et toi, t'es obligé de malgré tout de les remplir parce que tu peux pas rien faire, tu vois.
Parce qu'à l'écran, sinon il se déconnecte complètement.
Tu peux pas sous-titrer en disant là, elle est trop mauvaise, je refuse de doubler.
Bah, oui. Donc là, tu sauves les meubles, quoi. En fait, tu fais ce que tu peux.
Et c'est un travail qui se fait, c'est quasi immédiat.
C'est complètement immédiat.
T'as pas de temps pour le préparer.
Non, tu arrives en fait très souvent. Tu es convoqué, tu sais pas sur quoi tu vas travailler, sauf quand tu as des séries, évidemment pour Walking Dead, quand c'est des séances de Walking Dead, je le sais. Et là, en l'occurrence, je connais bien la série, donc parce que je suis parallèlement à ça devenue fan.
Ah, oui.
donc là, c'est plus facile. Mais parfois, tu arrives, tu sais pas si c'est une série fantastique, une série policière, voire même allemand, danois, russe ou japonais. Tu vois, tu sais pas.
Donc là, tu es obligé d'assumer le jeu de l'actrice.
Absolument.
Et de rentrer dedans.
Ouais.
Malgré tout.
Tu vois la scène une fois, deux fois, trois fois. Et roule ma poule, quoi. tu fais ce que tu peux.
Je voulais poser une question.
Vas-y, Ludo.
Est-ce qu'il y a des panouilles qu'évidemment on est obligé de faire, voilà, je veux dire, on n'a pas toujours forcément, j'imagine, les super rôles, le choix et tout. Et alors, du coup, comment tu abordes le truc en te disant, bon, je vais le faire. Est-ce que déjà, il faut arriver à trouver
Il faut y croire.
Ouais. Et deux, est-ce que finalement, à un moment, ça peut aussi te faire marrer et des fois, jouer des choses avec un peu de recul ou un second degré qui devient peut-être très drôle.
Je pense notamment à des...
Comment tu vis ça, en fait
Moi, je suis des années 80, enfin, génération des années 80. Tout ce qui est relatif à plutôt au manga des années 80, où on a, de ce que j'ai pu comprendre, les doubleurs n'assumaient pas forcément ce qui se faisait.
Doubleur, hein.
Pardon, excuse-moi. Oh là là, ça y est, genre.
Sont les boîtes de doublage.
Tout de suite. Je t'arrête tout de suite.
Non, je suis désolé. C'est autant
comédien
pour moi, mais à coup pas.
Attention. La prochaine fois, c'est le goudron et les plumes. Hein.
Voilà. Le fouet ne part pas, mais
bon, c'est pas grave.
Mais du coup, non. Visiblement, les comédiens de l'époque n'assumaient pas forcément, et du coup, surjouaient, s'amusaient, et ce qui donne ce côté un peu si spécifique. Est complètement décalé par rapport à l'original, avec à réécouter un Nicky Larson, par exemple, faut l'écouter aussi pour se marrer un peu, puis pour voir comment les comédiens à l'époque l'avaient joué, quoi.
Je dirais que oui et non, parce que maintenant, si tu veux, tu remarqueras que quand même, les séries, les films, tout se prend un peu au sérieux, quand même, hein. T'as très peu de choses, qui a un réel 3e, voire 15e, voire 25e degré. Nous, on retrouve ça, par exemple, dans la voice-over.
En voice-over,
tu sais, c'est en fait, tu fais une espèce de traduction simultanée, tu parles quasiment en même temps. Enfin, moi, je trouve ça insupportable
sur
à écouter.
Sur des émissions, des documentaires, des téléréalités.
Où là, tu vas te retrouver sur des téléréalités américaines. Et là, c'est absolument épouvantable.
C'est terrible. Surtout qu'en plus, là, pour le coup, l'émotion, enfin, c'est.
Ah, là, l'émotion, il n'y en a pas.
C'est
là, le côté artistique, expression, est assez limité à son strict minimum.
Il t'arrive de faire du voice-over ?
Oui, j'en fais aussi, et c'est vrai
c'est difficile.
Oui, parfois, tu as de très beaux documentaires, que ce soit en voice-over ou en narration, mais parfois, tu as des choses épouvantables où là, franchement, tu finis, tu pleures de rire, quoi, vraiment. Vraiment, mais on rigole beaucoup aussi, hein.
Ah oui, j'imagine. Oui.
Même en doublage, hein, on rigole beaucoup. Moi, je sais, par exemple, que je travaillais sur une série qui s'appelle FBI du haut très spécial, déjà.
Ah oui, Hawaii,
Non, c'était White Collar.
White Collar, pardon.
Le titre était tellement mieux en anglais. White Collar, et je me souviens d'un peintre russe qu'il fallait que je cite. J'ai jamais réussi.
T'as combien de prises comme ça?
Là, en l'occurrence, j'en ai fait beaucoup.
70, mais on a dit non.
Vraiment beaucoup. Et on a fini, on était en larmes tellement on riait. Et il est devenu le peintre russe. Parce
d'accord.
que franchement, lui, je n'ai jamais réussi à dire son nom. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un blocage sur ce monsieur. Bon, en général, l'ambiance est plutôt bonne. Si ce n'est que maintenant, il faut aller de plus en plus vite.
Oui, c'est ça.
Donc... il faut déconner, cadrer, quoi. C'est-à-dire que faut déconner, mais aller vite quand même, parce qu'il faut rendre les produits. En général, ils en ont besoin pour hier, donc.
En termes, on l'a pas évoqué tout à l'heure avec Emmanuel qui est venu à notre micro avant, mais tout à l'heure quand vous répondiez un peu aux questions de la salle, j'ai pas trop encore identifié qui faisait quoi, mais j'ai entendu qu'il y en avait certains qui faisaient du doublage de jeux vidéo.
Mm-hmm.
Est-ce que toi tu en fais?
Ouais.
Alors ça doit être encore un autre exercice justement, parce que l'expression de l'acteur, elle est pas si évidente qu'un être humain.
Ah bah là, si tu veux, le truc c'est qu'en général en jeu vidéo on a une voix témoin.
D'accord.
Qui est très souvent. Comment te dire sans être désagréable.
On voit l'idée, on comprend l'idée.
Sans être désobligeante.
Voilà. Et toi, tu te cales à cette voix témoin dans un temps donné qui sera le temps qu'il faut pour. On a rarement des images. Donc, moi, ça va parce que j'ai beaucoup joué.
Oui, donc les codes ou certaines grammaires, on peut les comprendre.
Ouais, voilà, d'accord. Je les connais un petit peu. Donc, ça va, mais c'est vrai que... Tu trouves aussi ton plaisir, ayant été une joueuse.
Ah oui.
Moi, j'aime bien faire ça, ça me fait marrer. Bon, alors, c'est sûr que ça peut être fatigant. Il n'y a pas si longtemps, il a fallu faire une dizaine de cris par mort. Et il y avait 6 ou 7 morts différentes.
D'accord.
Donc, noyé, roué de coups, jeté dans un trou, brûlé, enfin, je sais plus.
J'aime bien ton boulot, hein, c'est.
Bah, si tu veux, je suis ressortie de là, je parlais comme Barry White,
oui,
quoi.
Tu vois,
à force d'avoir hurlé, j'ai déjà pas une voix légère, mais là, c'était.
Quel jeu vidéo c'était? Enfin, ou le jeu sur lequel tu as pu travailler? Quelques jeux? Ou sinon, les jeux vidéo
je
sur lequel
je sais que j'avais fait un Conan, là, j'ai fait un jeu qui vient de sortir, mais. Écoute, parce que moi j'ai beaucoup joué à RPG, ça c'est pas des RPG, donc du coup ça.
C'est pas forcément des noms qui sont très parlants.
Je pourrais te dire après, j'ai dû le noter quelque part, mais là j'ai oublié en fait. J'avoue que je me souviens plus vraiment du nom de ces jeux-là, ça va me revenir peut-être. Surtout le dernier, Fallout.
Fallout, celui qui vient de sortir,
voilà.
Le 4.
D'accord, je fais une goule.
D'accord. Ta vie est géniale.
Pas une princesse,
mais une mignonne petite goule par contre.
En général, dans les jeux vidéo, je ne sais pas pourquoi, je suis souvent verte. On me dit souvent, bah alors ta créature, et on finit par me dire elle est verte. C'est une constante. Quand ils ont besoin d'un machin vert, ils m'appellent.
Si tu peux nous jouer le vert.
et donc au moment où tu doubles cette voix témoin, tu ne sais pas vraiment à quoi ressemble ton personnage.
On me l'a plus ou moins décrit, si tu veux. Comme je te dis, moi en général, je fais plutôt les créatures. Un jour, j'ai commencé, elle était très belle, mais elle s'est très vite transformée. Donc, voilà, c'est ça. Non, moi, en général,
c'est vraiment les trucs
dégoulinantes,
informes.
Goule, quoi, c'est ça, une goule. Et donc, on me dit plus ou moins, voilà, elle est comme ça, elle va ressembler à ça. Donc, en général, c'est plutôt des voix comme ça. Enfin, voilà.
Tu joues beaucoup sur ta voix, en fait, énormément, sur les registres et tout.
Donc, nous recevons une goule.
Voilà. Exactement. Mais pas que, j'ai aussi fait une grand-mère dans Killary. Non, ce qui est magique dans notre métier, c'est qu'on a tous les panels de rôles possibles, tu vois, tu passes.
Peut-être moi, plus facilement en tant qu'acteur.
Ah, bah complètement. Moi, je vais aller 25, 26 dans comment ça s'appelle, Teen Wolf.
Oui.
Ma nana, elle doit avoir 26, 27 ans, tu vois, pas plus. Et je peux aller jusqu'à 70, quoi, tu vois. En tant que personne.
C'est plus dur.
Ça t'arrive pas. Ouais. Et j'ai tous les poids, tous les âges, toutes les couleurs, et ça c'est génial. Tu vois.
C'est formidable ça par contre.
Ouais.
Et sinon, une question, quand tu es sur. Tu es quel type de comédienne quand tu
joues avec ton propre.
Est-ce que tu fais partie de comédienne parce que tu joues avec ton physique ou est-ce que tu es plutôt une comédienne?
Beaucoup. Moi j'ai besoin de bouger. Et d'ailleurs, tout à l'heure on rigolait par rapport à la hauteur du micro en général. Je suis petite, je dois le dire. Et donc du coup, très souvent, on me met sur un cube pour être à la hauteur de mes copains comédiens qui sont plus grands. Et c'est terrible pour moi parce que je bouge beaucoup et il m'est arrivé de tomber du cube.
Voilà, c'était plus sabre.
Ouais, moi j'ai besoin de bouger. Après, c'est très personnel. Il y en a qui ont moins ce besoin-là, mais moi je sais que quand je me bats, quand je cours, j'ai besoin de bouger. Ça m'aide à rentrer dans le truc.
Aujourd'hui, tu as des projets en cours hors doublage
Pour l'instant, non. En ce moment, je suis vraiment là-dedans. Je touche du bois et pourvu que ça dure beaucoup de temps, parce que là, en ce moment, j'ai la chance d'avoir pas mal de séries. Donc,
Qui s'occupe, en fait, en plus, oui.
Donc, c'est pas mal de temps. Donc, pour l'instant, non.
Et la question que je pense je vais poser à tout le monde, n'étant pas moi un fan de VF,
ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, les gens qui regardent en VO, qui te dérange, mais est-ce que tu aurais des arguments pour faire adhérer plutôt à de la VF ou en fonction des circonstances, ou est-ce que tu considères que ça fait partie de l'actualité d'être comme ça et de chacun fait son choix comme il le sent.
Je crois que c'est surtout ça, c'est chacun fait son choix. Après, il y a des anecdotes que tout le monde connaît, par exemple amicalement vôtre.
Oui.
Les comédiens américains, donc Tony Curtis et Roger Moore, ont trouvé que la série en VF était meilleure parce qu'il y avait un humour qui n'était pas amené dans la VO. Jamais j'essaierai de convaincre, parce que moi-même j'aime bien les deux, tu vois. Je vais regarder des séries en VO, je vais regarder des séries en VF. Je pense, en fait, le maître mot est de continuer ce qu'on a commencé. Quand tu commences une série ou en VF ou en VO, si tu changes, forcément tu vas trouver l'autre version complètement
On a nos repères qui sont
exactement. T'as l'habitude d'entendre une voix, tu vois. Moi, par exemple, j'ai regardé The Killing, qui est une série danoise. J'ai regardé la version danoise, je l'ai regardée en français, et un jour je me dis, je vais quand même voir. Danois, j'ai eu beaucoup de mal,
et d'autant plus que c'est pas un rythme qu'on a l'habitude d'avoir, en plus, là, en danois.
Exactement, mais je pense que pour parler pour notre paroisse, je pense qu'en France et aussi ailleurs, le doublage est vraiment bien fait. C'est-à-dire que nous, comédiens, on y met vraiment nos tripes. Les DA font vraiment attention de bien caster. C'est rarement mauvais, c'est rarement le sketch des nuls, le truc tout décalé.
C'est reconnu en plus en France, le travail français là-dessus est reconnu par rapport à d'autres doublages qui sont effectués.
C'est vrai que j'avais entendu, il y avait un podcast, je ne sais pas s'il existe toujours, qui s'appelle Parlons VF, d'ailleurs, ça s'appelle Parlons VF, et c'est un passionné de version française qui, justement, lui, fait un petit peu, par pan croisade, j'exagère, c'est pas du tout le mot, mais essaie justement de remettre en avant le travail des comédiens, et justement, je trouve que c'est aussi intéressant de mettre ça en avant, parce que que c'est uniquement du boulot d'abattage, etc.
On voit que vous le prenez
vraiment à cœur, et que ça vaut le coup de voir l'effort.
C'est vrai que on aime, si tu veux, ce qu'on fait. Et puis il y a un côté un peu, je trouve, Alice au pays des merveilles. Tu sais, quand tu passes de l'autre côté du miroir, quand t'es fan d'une série, moi je sais que quand je suis allée faire un guest sur 24 heures, j'étais hystérique.
C'est génial.
J'étais hystérique. Je dis, je vais parler à Jack Bauer. C'est dingue, quoi, tu vois. Et moi-même, alors que je fais ça depuis, j'ai toujours ce truc-là.
Tu gardes cette
bien de garder cette génialement, justement, et cet enthousiasme.
Guillaume, quand il est venu sur Walking Dead, il était tout fou parce qu'il adore la série, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a un truc un peu, quand on est soi-même spectateur, on n'est que spectateur. Mais c'est vrai que et puis t'as des voix mythiques, tu vois, t'as des voix, quand t'écoutes Patrick Poivet, Patrick Poivet, quoi. C'est juste génial ce qu'il fait.
Voilà la bouffe.
Merci. Ça a l'air pas mal.
Ça, t'es venu au bon moment au micro.
Oui, c'est ça, vous êtes nourri au chocolat.
C'est ça. Oh, c'est gentil.
Dis-lui, on te présente Louisa dans Undo Stress.
Ouais, c'est Louisa dans Undo Stress.
viens le dire au micro, Didouille, colle-toi.
Oui, mais encore une fois, Louisa, elle était là, mais elle parlait peu. Mais elle a fait les 6 saisons, c'est vrai.
Donc là,
la réplique du bébé qui a la tête plate.
Le crâne plat.
Donc là, tu poursuis sur Walking Dead, avec Michonne.
Oui.
Il y a d'autres séries qui vont arriver, ou des films
en ce moment, je travaille sur une série qui s'appelle The Leftover. Qui est sur la saison 2. Je viens d'arriver, moi, dans la saison 2, qui est une série que je connaissais peu. En fait, j'avais vu les premiers épisodes, j'avais absolument rien compris.
D'accord.
Et je me suis dit que ça valait le coup d'insister, parce que les comédiens sont formidables. Et vraiment, je m'amuse. C'est pas le mot qui convient, parce que c'est vrai que c'est dur.
Assez lourd, ça. A priori, ça y a un sujet assez lourd.
C'est 2% de la population qui disparaît. Et nous, on incarne une famille dans la ville qui s'appelle Miracle, dans laquelle il n'y a eu aucune disparition. Et évidemment, à la fin du premier épisode de la saison 2, notre fille disparaît.
D'accord.
Et c'est une famille très étrange. Mais c'est, enfin, vraiment, c'est un rôle magnifique, d'accord, vraiment très chouette. Parallèlement à ça, je fais le chapeauté, donc rien à voir. Je fais deux personnages, Vachetta, la vache anglaise, écossaise, anglaise, et Zapata, la nounou espagnole.
Donc, on peut avoir un exemple peut-être de Zapata ou de la vache ou
ça. Qu'est-ce que ça donne, Zapata comme,
Zapata, y parle un peu avec l'accent espagnol, mais légèrement, parce que je ne roule pas l'air, mais je parle quand même un peu. Je me suis beaucoup inspirée de Victoria Abril.
On y sent les
incroyable. J'adore.
Voilà.
En tout cas, mais merci d'être venu
à notre
micro.
Merci,
hein, c'est très sympa.
Merci de vous intéresser à notre beau métier.
Ah bah, moi, je voudrais juste pour vous dire, c'est que ce soit Michonne qui nous dise au revoir, en fait. Ouais, que ce soit possible. Voilà. Ça,
bah, si vous voulez, mais faites attention aux zombies parce qu'il y en a partout ici.
Ah, génial.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et bonne journée de dédicace. Et puis,
au revoir.
À une prochaine. Au revoir.
Oups, n'hésitez pas à arracher le casque.
Moi, je suis super.
Merci à vous. C'est super sympa.
Un petit chocolat.
Alors, envers là, on est de retour après un bon repas bien lourd. On est avec Laurence Bréheret.
Oui.
J'écorche pas.
Non, très
impeccable.
Bien. Bréheret. En fait, c'est Bréheret, mais j'ai enlevé l'accent.
D'accord. Ouais. Donc, on dit Laurence Bréheret.
Voilà.
Ça fait
mieux, je crois.
Ça fait mieux, c'est sympa. C'est classe, ça sonne, c'est élégant.
J'aime bien.
C'est élégant, fin, racé. Moi, j'aime beaucoup.
Non. C'est breton, hein.
C'est breton.
Ouais, c'est breton.
D'accord. Et alors, Laurence, est avec.
Ça veut dire court sur pattes. C'est pas du tout.
Je sais pas s'il fallait peut-être pas le traduire en fait.
C'est très bizarre. Ils sont bizarres les Bretons des fois, mais ça veut dire ça. A priori, on avait ça dans un livre de signification des noms bretons. C'est pas très flatteur, mais.
Bah, Laurence Bréheret, c'est vrai que ça sonne mieux que Laurence court sur pattes en fait.
Ben ouais, finalement, donc.
Bobo.
Ouais.
Et donc, en fait, Laurence, tu es avec nous dans cette magnifique convention du Festival du film fantastique de Rouen. Et en ta qualité de comédienne, puisque tu es comédienne, et plus particulièrement en ce moment, tu assures le rôle d'un personnage assez connu, puisque c'est le personnage de Cersei, qui est donc la reine dans la série Game of Thrones.
Mais j'assure le doublage, donc la voix française. Oui. Je ne prête que ma voix, pas mon corps. Donc ce n'est pas mon corps qui se. Bah non, je ne dirais pas.
Non, faut pas te rendre.
Non,
je vois de quoi.
Oui, je ne dirais pas. D'ailleurs,
c'est même pas le sien.
Mais je suis que la voix française de Léna.
Oui. Que la voix française, c'est déjà pas mal quand même.
Oui, voilà. Oui, mais voilà, je ne suis pas son corps.
Puisque par ailleurs, tu assures, tu joues également, enfin, tu incarnes Léna Hédé à l'écran sur d'autres rôles, ou c'est spécifiquement pour cette série-là?
Alors oui, non, elle, j'ai commencé à la doubler dans Game of Thrones. Mais j'ai pas fait ailleurs.
Elle a fait 300.
Alors avant non. En fait,
d'accord.
Depuis oui.
D'accord.
Depuis Game of Thrones, c'est moi. Mais avant, en fait.
Et Juge Dredd aussi, elle a notamment un rôle dans le film.
Mais c'était pas moi.
D'accord. Alors je voudrais juste passer pour compléter la présentation, puis après je laisserai les questions à mes camarades de jeu. Tu n'incarnes pas que Léna Hédé à l'écran, mais également moi, une actrice que j'aime beaucoup, qui est Tilda Swinton.
Oui.
Et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis vraiment, si c'est possible de réavoir une petite incarnation de Tilda Swinton, c'était génial tout à l'heure ce que j'ai entendu.
Donc quoi,
dans le transpersonnage.
Ah oui, c'était très spécial, hein, transpersonnage.
Bah, puisque tu l'évoques, Ludo, on peut peut-être en parler tout de suite. D'ailleurs, les anecdotes de d'enregistrement de doublage, puisque on a eu le droit tout à l'heure dans les questions-réponses à cette anecdote, puisque visiblement il y avait un problème de diction qui n'était pas forcément évident à mettre en place. Alors on va te laisser nous.
Parce que j'avais doublé dans Benjamin Button, dans Broken Flowers, dans Vanilla Sky.
Ah oui.
Et je ne suis pas toute seule à la doubler, puisque je disais il y avait aussi Françoise Cadol qui la double et Isabelle Gardiens. Et donc. Dans Transpersonnage, j'ai passé des essais, parce qu'on est plusieurs à la doubler, souvent il y a des essais. Et là, je la vois à l'écran, et je la vois avec ses lunettes, je la reconnais pas du tout, en train de parler comme ça, effectivement. Et en fait, donc j'essaye de parler comme elle. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que l'articulation. Et donc je me dis, mais comment elle fait? Et bien, en fait, elle avait un dentier, et à la fin du film, elle enlève le dentier. un truc comme ça. Et après, il retrouve son nom. Et je me dis, bon, si j'avais su peut-être dès le départ, j'aurais...
J'aurais pu avoir un artifice ou quelque chose.
Je sais pas. Ou... C'est rare. Oui. Enfin, ce que je disais, quand on double quelqu'un qui mange, on mange pas forcément, on met un doigt dans la bouche pour simuler, pour qu'il y ait quelque chose.
La vache, ou voilà. En tout cas.
Quand on a, ouais, on est médecin, on met des. Mais c'est... en fait, on a que notre, voilà, on fait pas forcément de.
Il y a pas de.
Non, rarement, quoi.
Des gadgets lourds.
On se pince le dé comme ça. Enfin, ouais, y a pas grand chose finalement. On essaye de se débrouiller.
C'est de la débrouille, ouais. C'est du système D en fonction de comment on le sent.
Mais là, c'est vrai que c'était particulier ce dentier, quoi, parce que c'est ce qui lui donnait l'articulation un peu spéciale.
D'accord.
Pardon, vas-y Arnaud. Il y a deux autres acteurs quand même très connus aussi que tu incarnes à l'écran. Alors il y a Morena Baccarin.
Oui.
Morena Baccarin, pour celles et ceux qui se souviendraient pas forcément, c'est la personne qui joue l'épouse du personnage principal dans la saison 1 de Homeland.
Et 2 et 3.
Et 2 et 3, parce qu'en fait elle le suit tout du long.
C'est son mari, donc elle le suit. Voilà. Cette femme, elle est fidèle.
Voilà, une jolie brune, magnifique d'ailleurs. Très, très
sauf jolie. Qu'il meurt, le héros, donc là je suis partie de la série aussi, forcément.
Bon, zut, je ne savais pas.
Ah, si. Non, j'ai pas dit ce qui se passait dans Game of Thrones. Là, il meurt, on le sait. Et la série est passée, il est mort.
Et puis également Helena Bonham Carter. Alors
oui,
quand même, c'est
depuis
quand même,
Charlie et la chocolaterie.
Depuis Charlie et la chocolaterie. Donc,
tous les films de Tim Burton et la plupart des films en général. Il y a 2-3 films où je ne l'ai pas doublé. Dans
Harry Potter.
Harry Potter, parce que je fais la mère d'Harry Potter, en fait.
Ah, d'accord. Ah oui, c'est difficile
Potter.
De faire.
Donc là...
C'était donc toi.
La morte. Je fais d'accord. Beaucoup les mortes. Et c'est vrai. Vas-y. Et là, donc, Lily Potter, donc, puis elle arrive, l'autre. Donc, je fais quoi? Je ne fais pas tous les personnages non plus. Donc, il y a des essais, et finalement, ils ont pris Marie Zidi.
D'accord.
Qui est très bien. Elle est particulière dans Bellatrix. Là, dans
un peu surexcité.
Voilà, et Marie est très bien. Voilà. Après, peut-être qu'au niveau de sa voix proche, je suis plus proche peut-être après de sa voix.
Du timbre peut-être.
Oui, quand tous les films que j'ai faits, c'est vrai qu'on n'est pas très loin parce qu'elle chante dans Sweeney Todd, elle chante.
Oui, c'est juste.
Donc il faut que je sois raccord-voix assez.
Et oui, du coup, ces exemples-là, justement, quand il y a du chant, c'est également toi qui t'en charges ou c'est des fois il y a des chanteurs qui viennent, qui ont un timbre un peu du même, ou est-ce qu'il faut aussi avoir ça, cette corde à son arc de savoir chanter quand on est comédien de doublage?
Moi, au départ, je suis pas chanteuse. Mes enfants me le disent.
C'est que les enfants sont cruels.
Et mon mari aussi. Alors qu'il chante très bien. Donc, mais moi, j'adore chanter. Et sur les noces funèbres, notamment, il y avait la chanson Je touche la flamme d'une bougie, je ne me fais pas mal. Vous connaissez ça?
Ah oui, j'adore.
Même
ce film,
poignardé, ça m'est égal. Et là, j'ai chanté cette chanson.
Moi, je trouve que tu chantes bien.
Oui, mais je chante comme une comédienne qui chante. Je suis pas chanteuse. Et après, non, mais j'ai passé les essais. C'est-à-dire que si j'étais pas capable de faire la chanson, on prenait effectivement une chanteuse qui faisait la chanson. Sauf que là, cette chanson n'était pas trop compliquée. Donc j'ai réussi à la faire. Mais dans Sweeney Todd, heureusement, il n'y a pas eu. Enfin, heureusement, ils n'ont pas fait. Ils ont gardé l'original.
Oui.
Donc je n'ai pas chanté, heureusement, pour le public français. Non, parce que là, c'était compliqué, comme dans Les Misérables aussi. Bon, c'est tout chanté. Donc, mais non, en général, ils prennent des chanteuses. Enfin, ils font passer normalement des essais aux comédiens. Qui font la voix française, mais si le comédien n'assure pas, parce que des fois c'est compliqué, la comédie musicale Annie par exemple, c'était un peu compliqué, enfin, des fois ils prennent des chanteurs.
D'accord.
Voilà.
Mais je crois que c'était le cas notamment sur La Reine des Neiges ou quelque chose comme ça, c'est pas la même
personne
qui chante et celle qui joue, je crois.
Alors je pense que c'est Anaïs Delva qui chante et qui joue, et Emilou Homs qui chante et qui joue aussi. Voilà, c'est un bon exemple. Pardon. Comment tu t'appelles?
Hey, bonjour la rigueur.
Bonjour.
Il me semble, La Reine des Neiges, c'est deux amis.
C'est d'amateurs,
d'accord.
C'est peut-être un autre petit personnage qui ne chante pas. Peut-être un petit personnage.
Je sais que ça arrive de temps en temps, ce type de.
Oui, ça peut arriver, effectivement.
Non, Laurent, c'est pénible. Au bout d'un moment, il vient lourd.
Virez-le.
C'est lui le chef.
Ah, c'est le chef.
Mais c'est lui qui nous paye 5.
Le chef, c'est celui qui en fait le moins, hein. C'est comme ça. C'est comme
Et sinon, comment ça se passe, un casting de voix? Est-ce que on te présente un morceau du film et le texte c'est ça, et tu le dis? Ça veut dire qu'auparavant, tu ne connais pas forcément le personnage vraiment. Tu dois te faire quoi à la première image qui t'est renvoyée par la comédienne, en fait.
Par exemple, effectivement, Charlie, la chocolaterie, quand j'ai commencé sur Helena Bonham Carter, En fait, on n'avait pas l'image, on avait juste... parce que c'est la confidentialité dont on parle. Charlie la chocolatrice, c'était très confidentiel, donc on n'avait pas l'image, on avait juste le son. Et donc j'ai joué en français ce que j'entendais en anglais. Et j'étais choisie en fait sur je pense mon timbre de voix et puis le jeu aussi mais oui on est après normalement on a l'image, on double la comédienne voilà sur une boucle ou deux, une boucle c'est un morceau, ça fait 45 secondes à peu près. Et puis on voit si ça colle ou pas, si c'est dans ses yeux, si ça rentre dans l'image, si la voix elle est dedans, voilà, c'est là ça c'est comme ça, on passe des
essais. Pour que la voix soit expressive, j'imagine que tout le corps l'est aussi, parce que quand on prend on a pris l'exemple là de Tilda voilà qui sur le film est très barré, très allumé, donc j'imagine que pour avoir la voix en bouche et avoir son attitude,
je suis comédienne de théâtre, de tournage. Enfin, je suis comédienne au départ.
Oui, c'est ça.
Je suis pas qu'une voix. Et quand je double un comédien, je joue comme un comédien. Alors, ce que je dis toujours, il faut refaire presque la scène.
Oui.
Des fois, effectivement, parce qu'on n'a pas les partenaires. Des fois, on les a, mais la rejouer derrière une barre, derrière un micro. Mais moi, je la joue effectivement.
Voilà,
quand j'ai un téléphone, j'ai un téléphone. Quand je cours. Enfin, tout en sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait de bruit de veste, que c'est juste la voix qui ressort. Donc, je bouge comme ça et je cours comme ça. Mais voilà, ou quand je mets en colère, quand je pleure, mais forcément, je bouge. Je peux pas être comme ça et puis faire tous les trucs comme ça. Non.
Non, mais c'est pour justement insister sur le fait que c'est vraiment un travail de comédien.
Ah, mais complètement. Il faut être comédien
d'abord.
Oui. On ne fait pas de la voix comme ça. Ce n'est pas de la voix. On est comédien et on est comédien qui comment dire, avec des contraintes de jeu, avec des contraintes de rythme, avec des contraintes parce que on se glisse dans la peau, mais on se glisse dans l'émotion. On le jouerait peut-être pas comme ça, nous si on devait le jouer. Donc il faut avoir plein de cordes à son arc pour pouvoir jouer toutes ces gammes, j'irais, pour pouvoir rentrer dans et avoir beaucoup d'humilité aussi, parce que on est là au service de du personnage. On peut pas créer autre chose que ce qu'il a fait.
On reste dans un certain cadre.
Oui. Donc il faut bien écouter. Il y a un directeur de casting artistique qui disait c'est du karaoké intelligent, mais il y a une véritable écoute. La qualité presque du comédien de doublage, c'est l'écoute. Il faut qu'il sache exactement ce que le comédien a ressenti, a fait, quelle émotion il est, quel rythme. Donc il y a une véritable travail d'écoute, de voir comment il a ouvert la bouche à ce moment-là, comment il a insisté sur ce mot à ce moment-là, puis s'il parle comme ça ou s'il parle comme ça. Il y a plein de choses à retenir pour pouvoir que ça rentre dans l'image.
Être dans l'interprétation.
Être dans son corps, dans sa bouche et dans sa pensée. Entendre que c'est lui qui pense ce qu'il dit et ce qu'il joue. Voilà. Donc c'est pas de la voix seulement, c'est un vrai travail.
Oui. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec Emmanuel. Vous avez...
Continue à lever le doigt quand tu veux parler.
C'est bien, il est discipliné.
Normalement, c'est ce qu'on doit toujours faire.
On s'est centré nous.
Je suis seul à être discipliné
ici. Sinon, il fait le doigt. Quand
sinon, il prend un petit coup de fouet.
Voilà.
Sinon, entre nous, c'est la jungle, en fait.
Voilà, exactement. On en parlait tout à l'heure avec Emmanuel. Sachant que vous avez, a priori, très peu de temps pour rentrer dans ce rôle-là. Sur un film type Charlie et la chocolaterie, par exemple, la partie casting, combien de temps tu as pour le préparer?
Mais pas de temps.
C'est ça?
Rien.
Rien du tout.
Tu me dis en anglais, je vais pas te le faire parce que je parle pas bien anglais, mais hein, et je te l'aurais fait derrière. Et là, on dit ok ou non.
C'est ça.
Ça dure, le casting va durer 5 minutes.
Ouais. Et d'accord. Et à qui revient le choix final de ce type de casting sur une grosse production comme
Alors,
ça
en général, ça dépend. Sur un film cinéma, c'est les Américains. Là, c'est la Warner, Charlie et la chocolaterie. Et c'est la Warner, c'est les Américains qu'on choisit, on leur envoie les essais. Ouais. Des fois, c'est sur le Jim Jarmusch, par exemple, Broken Flower, c'est lui-même qui a choisi les voix françaises. J'ai fait Voyage de Chihiro aussi et Princesse Kushana, c'est Miyazaki qui a choisi les voix françaises.
Ah, oui, c'est comme ça que ça marche.
Et parfois, c'est par exemple, de Disney. Je faisais tous les films de Helena Bonham Carter sur la Warner et puis d'autres, Sony par exemple. Et Disney, j'avais encore jamais travaillé pour eux. Et quand La Reine Rouge, quand Alice au Pays des Merveilles est arrivée, j'ai passé les essais en tant que voix officielle d'Helena Bonham Carter sur déjà quelques films. Et j'ai pas été choisie.
D'accord.
Les autres n'ont pas été choisis non plus. Donc ils ont refait un deuxième casting.
D'accord.
Et là, la directrice artistique Barbara Tissier m'a dit, mais Laurence, tu repasses les essais, parce que là, c'est les Américains qui vont choisir. Mais je dis, faut que tu repasses. Donc, j'ai repassé les essais une deuxième fois. Elle a demandé et j'ai repassé.
D'accord.
Et là, c'est les Américains qui ont choisi. Et depuis, maintenant, surtout les Disney, ils m'imposent en tant que voix officielle d'Helena Bonham Carter.
D'accord. Mais c'est toi qui dis qu'on lui coupe la tête.
On lui coupe la tête, oui, c'est moi.
C'est la réplique préférée de Delphine qui n'est pas là aujourd'hui. Mais
tu vois, là, c'est marrant parce que sans l'image, sans
oui,
sans,
c'est pas facile de.
Sans, ouais, c'est tout d'un coup, oui, c'est. Je sais pas si je saurais te le refaire.
Ouais, non,
mais en plus, on a fait la bande-annonce d'Alice au pays des merveilles 2.
Oui,
qui va. Il y a une semaine.
De l'autre côté du miroir, je crois.
Ouais. Enfin, et elle me fait rire, quoi, la Reine Rouge.
Ah oui, bah oui.
Elle a un rire.
Ah oui,
elle est folle.
Il n'est pas toujours bien vu, mais moi je l'aime beaucoup celui-là.
Ah ouais.
Je l'aime bien.
Ouais.
Et justement, oui, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, le casting et les règles du jeu du casting, c'est-à-dire de repasser un essai, un deuxième, peut-être un troisième, je ne sais pas, tu le vis comment? C'est quelque chose d'assez lourd, de frustrant, d'être, le fait aussi d'être refusé. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on vit ça? Parce que pour le coup, j'ai l'impression que
rien n'est jamais acquis.
C'est ça, le quotidien du comédien, c'est ça, c'est souvent de prendre beaucoup de refus.
Ouais. C'est l'école de l'humilité.
Ouais.
Le métier de comédien, c'est se remettre en question chaque jour. C'est ça, ça marche pour le doublage. Enfin, ça marche. C'est pour le doublage, mais c'est pour tout pareil. Pour des films, pour des. Là, j'ai une copine sur une série télé. Bah, 3 jours avant, on l'a évincée de la série. Elle était rôle principal. Enfin,
ah oui.
On est des pions, on n'est pas irremplaçable, il faut prouver, on n'est pas fonctionnaire du doublage, ni de. On est sans arrêt en train de. Enfin, il faut sans arrêt pas prouver, mais se remettre en question, c'est ce qui fait que dans ce métier, on tient peut-être et on dure, parce qu'on se remet en question beaucoup.
Oui. C'est un peu ce qu'on voit dans Le Goût des Autres, qui a été tourné à Rouen.
Exactement. Magnifique film d'Agnès Jaoui.
Le plus dur, c'est de dépendre du désir des autres.
Ouais, exactement.
Et effectivement, cette phrase-là, elle est assez intéressante.
C'est bien mon Nico, tu viens te rattraper par rapport à
la Reine des Neiges.
Voilà, c'est bon. C'était con, maintenant.
T'as rattrapé la Reine des Neiges.
J'aurais pu couper la Reine des Neiges, mais maintenant, on ne peut plus le couper.
Ah ouais, là, t'es grillé.
Oui, Arnaud, tu voulais dire quelque chose, pardon.
Oui, on avait
Arnaud, levez la main.
Lève-le toi, Arnaud, s'il te plaît, parce que là, on ne sait plus, là.
Alors, il faut savoir que je suis le petit dernier dans l'émission, il faut que je m'impose. Et
voilà,
moi je ne me permets pas d'intervenir sans avoir
la
main.
Quel numéro.
Quand tu interviens, tu parles maintenant.
C'est bon.
On avait une petite discussion hors micro tout à l'heure au sujet justement du fait pour certains Disney ou d'autres dessins animés d'aller chercher des comédiens qui sont connus, qui ont des noms en fait. Et comment c'est vécu ça de la part de comédiens de doublage?
Là, je vais vous faire la voix d'exorciste que j'ai fait.
Ah oui, alors s'il te plaît.
T'as vu ce qu'elle a fait?
Je vais vous raconter ça, mais j'ai doublé l'exorciste c'était l'exorciste au commencement.
D'accord.
Et j'ai fait ce film et j'ai fait toute la partie du médecin et après, donc, elle devenait le monstre.
Ouais.
Donc, je parlais comme ça, il m'avait speeché la voix et.
Je parlais comme ça.
Et franchement, j'ai mis un an à m'en remettre. De mettre ma voix comme ça, avec ces effets-là, sur ce monstre-là, en me disant, mais non, ça me fait rien, j'ai pas peur, machin et tout. Eh ben, j'ai mis pendant un an, je me levais la nuit, je le voyais sur le canapé. ça m'a
vraiment
impressionné. Impressionné. C'était quoi la question?
Le fait d'aller chercher des noms.
Oui, alors, d'aller chercher
des noms.
C'est bien. Dans un sens, parce que ça met un peu la lumière sur notre métier.
Tu vois, c'est ce que je disais.
C'est bien parce que quand c'est Danny Boone qui fait Orton, quand c'est c'est bien, ça apporte un plus. Et en général, ils sont plutôt bien les comédiens. Certains y arrivent moins bien que d'autres. Je ne citerai pas de nom. Mais voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que quand nous on fait les noces funèbres, par exemple, où on fait toute la voix du film, la chanson, qu'on est au fond du générique,
c'est violent.
Là, c'est un peu violent, parce
deux
que
deux poids deux mesures.
On n'est pas sur l'affiche.
On aurait aimé à ce moment-là, peut-être. Après, c'est vrai qu'on n'est que la version française. Il y a toutes les versions européennes qui sont là aussi, donc ils nous mettent après les Américains, après tout ça. Mais des fois, parfois, on aimerait bien que nos
noms soient valorisés. valoriser un petit peu.
Un petit peu plus, ouais, sur certains produits comme les Noces Funèbres, par exemple, comme les, quoi, oui, des, sur des dessins animés ou sur Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai, j'aurais bien aimé que mon nom soit aussi peut-être parce que c'est un, c'est pas, y a, c'est pas une création plus que le, un doublage normal, mais. Voilà, on est un peu, c'est vrai, on est un peu la quatrième, on est un peu à la fin, il n'y a plus personne dans la salle, il commence à passer aspirateur.
Ça fait 3 minutes que mon fils demande à sortir.
Et voilà, on baigne dans les pop-corn et les spectateurs de la... arrivent et puis voilà, notre nom est toujours pas passé au générique. C'est un peu frustrant, mais en même temps, voilà, on fait un métier de l'ombre. C'est l'école de l'humilité. La seule chose que je regrette parfois par rapport à ce que, cette question qui est intéressante, c'est que parfois on n'est pas forcément imposé sur des rôles sur lesquels effectivement on pourrait considérer qu'on les suit face aux comédiennes. Justement parce que Helena Bonham Carter, je l'ai pas doublée sur Le discours d'un roi. Pourquoi
oui.
Bah oui, parce que c'est allé dans une petite boîte qui systématiquement, pareil pour Emmanuel Carsen, il a pas doublé Sean Penn dans cette boîte et Naomi Watts. Enfin, systématiquement,
pardon, prennent... Emmanuel Carsen double Naomi Watts.
Non. il sait tout faire.
Ah, vraiment, c'est impressionnant.
Non, sur Sean Penn. Non, mais en général, c'est, ils prennent pas les voix officielles. Ils prennent en tout cas des gens qui en ont jamais fait. Enfin. Il a déposé le bilan en fait, monsieur.
Parce que c'est
voilà.
Même
non mais voilà, c'est juste qu'à un moment donné, on aimerait un petit peu plus de reconnaissance, peut-être par rapport au travail qu'on a fait.
Bien sûr.
Après, ces comédiens ne nous appartiennent pas forcément. Et moi, j'ai doublé Julianne Moore dans Loin du paradis. Je l'ai pas doublé dans d'autres films parce que peut-être que je lui correspondais pas non plus. Sur ce film-là, je correspondais. Après, c'est voilà.
Mais c'est paradoxal de dire ça parce que Julianne Moore, si elle était dans ce film-là, c'est que enfin. Sa voix doit correspondre à n'importe quel moment si on sait s'adapter à sa voix.
Ouais, mais il y a eu des essais sur ce film-là et c'est moi qui les ai eus sur ce film-là. Sur Transpersonnage, je dis, on est plusieurs à la doubler, Tilda Swinton, Julianne Moore, il y a eu plusieurs femmes aussi à la doubler, plusieurs actrices françaises. Ça dépend, ça dépend aussi du rôle.
D'accord.
Ça dépend aussi du rôle.
Parce que aussi un côté d'identification un petit peu aussi qui est les gens se qui entendent enfin qui voient une actrice entendent aussi la voix et je veux dire à un moment il y a ce phénomène d'identification aujourd'hui moi je Magnum, j'imagine pas avec une autre voix que celle qu'il a.
C'est comme Bruce Willis, vous imaginez pas quelqu'un d'autre que Patrick Poivet.
Voilà,
exactement. Et comment il s'appelle
Stallone,
Minority Report,
Tom Cruise.
Il y a eu Yvan Attal, il y a eu Patrick Poivet. Enfin, il y a eu pas mal de gens qui l'ont doublé aussi.
Mais après, moi, je me posais la question justement si c'est cette identification, est-ce qu'elle n'est pas à double tranchant au final ? Parce que on a tellement entendu, par exemple, telle voix pour telle personne. Du coup, ce comédien qui a cette habitude-là,
surtout qu'on a une empreinte vocale.
Voilà, il y a une signature vocale qui est tellement importante que est-ce que ça enferme
ça
pas,
ferme pas les portes
les, voilà, ça ferme pas les portes parce que les certains casteurs diraient non, lui, il fait trop penser à Stallone non, on entend trop.
Mais moi, j'ai pas l'impression. Peut-être qu'on me reconnaît, mais moi, j'ai pas l'impression que quand je double. Morena Baccarin ou Lena
Bonham Carter.
Que ce soit, parce que c'est en fonction du rôle, même Helena Bonham Carter dans Sweeney Todd, c'est pas la même que dans La Reine Rouge, pas la même que dans Les Suffragettes. Et même moi, je suis pas. C'est Laurence Bréheret. Ma voix, des fois, elle est comme ça, mais des fois, elle est comme ça. Et puis le matin, au réveil, elle est comme ça. Et puis, non, mais après, c'est un rythme différent. C'est vrai qu'il y a une empreinte quand même. J'ai raconté une anecdote. Un jour, j'ai fait un film avec Bruce Willis, enfin avec Patrick Poivet. J'ai doublé un film avec Patrick Poivet qui n'était pas Bruce Willis. Et il était à côté de moi et on avait le rôle principal tous les deux, mais j'avais l'impression d'avoir Bruce Willis à côté de moi. C'était au tout début de ma carrière
de travail dans le doublage.
Et c'est vrai que j'étais très, très perturbée parce que j'avais l'impression d'avoir Bruce Willis à côté de moi. Et à l'image, c'était Alec Baldwin, parce qu'il doublait aussi Baldwin. Et voilà.
Distorsion de...
C'est vrai que la voix de Patrick, c'est Bruce Willis pour tout le monde.
Ludo.
Mais il est capable de faire plein d'autres choses.
Bah, bien sûr, j'imagine bien.
Moi, je voudrais savoir un petit peu, parmi toutes tes activités, je sais que tu as une grosse activité de théâtre, parce que tu écris des pièces.
Aussi, oui.
Tu fais du théâtre. Comment tes activités se répartissent entre l'activité de doublage, l'activité de théâtre, le cinéma,
les passions, les loisirs, un peu comme tout ça, voilà.
Comment tout ça s'organise et se mêle?
Ouais. Bien, question. le théâtre, déjà, c'est le soir.
D'accord.
Voilà, donc j'ai joué là récemment à la Comédie Bastille à Paris pendant 4 mois. Donc voilà, ça n'empêche qu'on peut aller tourner la journée, aller faire du doublage et puis être au théâtre le soir. Donc ça, c'est possible. Après, on ne joue pas non plus 12 mois sur 12 au théâtre. Là, ça fait un an que je n'ai pas rejoué au théâtre. Après, le tournage, j'ai tourné pour TF1 à Joséphine Ange Gardien. Ouais. Là, ça m'a pris 4 jours. J'ai tourné dans Clem, ça m'a pris 2 jours. On s'arrange. Je travaille pas. Moi, j'ai beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une formation d'ostéopathe énergétique, oui, de sophrologue, parce que j'ai du temps en faisant mon métier de comédienne, en faisant du doublage, des jeux vidéo, parce que je fais aussi pas mal de jeux vidéo. Je fais des pubs, je tourne, je joue au théâtre, mais j'ai du temps. Je sais pas, j'ai 2 enfants pourtant.
Mais... Non, mais c'est génial.
J'ai du ménage, du repassage, j'ai plein de choses, mais j'ai du temps.
Une femme quoi.
Non, mais c'est vrai. Mais en fait, je suis un peu boulimique aussi. J'aime apprendre.
Curieuse.
Fois, ouais. Puis je suis passionnée par les médecines douces. Je suis passionnée par les neurosciences. Enfin, oui. Voilà. J'aime lire tout ça. Donc, j'aime apprendre. Donc, je fais beaucoup de stages aussi. Puis, mine de rien, bizarrement, le métier de comédien, c'est un métier où on travaille sur soi, sur l'âme, sur la psychologie, avec nos émotions, avec nos blocages, avec nos parce que faut savoir tout faire en tant que comédienne, se mettre en colère, pleurer. On décortique l'âme humaine quand même quand on travaille en tant que comédienne. Donc ça m'a toujours intéressé en fait de travailler. Je pense que je serais une excellente thérapeute parce que j'adore ça. J'adore la psychanalyse. J'ai fait plein de choses en recherche, je dirais, de travail sur soi. J'ai fait aussi pas mal de choses dans l'alimentation parce que je trouve que
c'est pareil. C'est-à-dire ?
La nature.
Comment on peut se nourrir, pas avec des chocolats avec de la guimauve là, qu'il y a sur la table. Non, l'alimentation, c'est important. Il faut mettre du bon carburant quand on est. Voilà, parce que quand on est comédien, on travaille avec son corps. Et on peut pas non plus. Si on veut être en forme, si on veut avoir l'énergie, si on veut être. Ça fait partie. De notre nature humaine, voilà. Et tout ça m'intéresse.
C'est génial de pouvoir avoir comme ça à la fois un métier passionné, passionnant, et en même temps avoir des hobbies derrière qui sont aussi passionnants.
Oui, après j'aime le voyage, l'équitation.
Tu t'ennuies pas, quoi.
Si,
quand même. Ah, bah merde.
Moi, je suis un peu hyperactive.
Est-ce que ça participe pas aussi, comme tu disais, les difficultés de un jour on peut en avoir et aussi un autre jour on n'est pas sûr d'en avoir. Est-ce que ça participe on évacue et puis j'attends pas trop de ça trop fort, je vais être marchande de poissons à la cuillère pour la deuxième fois. Ça participe justement à un exutoire. Enfin, il faut pas.
Ce métier est compliqué. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc je suis intermittente du spectacle depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine.
Ça, c'est un truc.
Je ne sais pas si la semaine prochaine j'ai du travail. Enfin, si là j'ai 2 jours de travail la semaine prochaine.
Ah, mais tu as une semaine de vision.
Là, on vient de m'appeler là, pour un truc pour le Puy du Fou. Oui, je vais avoir un truc le 30. Mais après, oui, je sais vaguement que les séries vont reprendre. Game of Thrones va reprendre en mars-avril. Gotham aussi que je fais. Oui. Ça va reprendre. Mais. Voilà, je sais pas si je ferai mes heures, je sais pas si demain un réalisateur peut m'appeler pour me proposer un rôle, et puis il peut ne pas m'appeler aussi.
Et malgré tout, ça fait quand même 30 ans que tu es dans ça. En fait, en gros, on t'appelle.
C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit, c'est bon, regarde ce que t'as fait, regarde comment ça se passe. Et à la fin de l'année, finalement, on se dit, ça va. Ouais. Ça va, j'ai travaillé. Alors, le mois dernier, par exemple, en septembre, j'ai travaillé, j'ai tourné, j'ai travaillé 17 jours. J'ai eu, c'est beaucoup 17 hein, pour un intermittent du spectacle. En général, ils travaillent 100, 150 jours dans l'année. Ouais. Hein, on est un peu. Mais ouais, on ne sait pas ce qu'on va faire. On sait pas. Et même si on est sur des trucs, des projets, un film, par exemple, tant que le premier jour de tournage n'est pas arrivé. On ne sait pas si on va tourner parce qu'on signe le contrat sur le tournage le jour même et on est sûr de rien. Et en même temps, c'est agréable d'être sûr de rien, de se dire demain, je ne sais pas de quoi ce sera fait parce que tout est possible. Ah et bah comme dirait Charlie dans le papa, le grand-père de Charlie dans Charlie et la chocolaterie, rien n'est impossible, Charlie. Et ça fait 30 ans que je vis avec cette idée que rien n'est impossible et que tout est possible.
Vu que ça dure.
Ouais.
C'est un peu, ouais. C'est... Bah, très beau message, je dirais, pour
oui,
conclure.
Conclusion,
parce que... Accepter de lâcher prise.
Voilà. Ouais.
Et de se dire que tout peut arriver demain. Le bien comme le moins bien. Maintenant, j'attends que le bien, le moins bien. Voilà. Je veux pas.
Exactement.
Super.
Bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, en tout cas.
Merci.
Ludo,
à vous
tu voulais pas une petite.
Voilà. Oui, Laurence, on va se quitter là dans quelques minutes. Juste, est-ce que tu pourrais nous dire un au revoir? Mais est-ce que ça pourrait être Cersei qui nous dise au revoir? Enfin, qui.
Au revoir aux auditeurs de l'Entrepode,
si tu es, que tu sois
personnalisé.
Voilà.
Cersei Lannister vous dit au revoir. Et vous donne rendez-vous à Port-Réal très bientôt.
Super,
merci beaucoup, Laurence. Merci.
Merci, bonne
merci beaucoup.
Bonne vie.
Oui.
À bientôt.
À bientôt.
Allons-y, mon petit Ludo.
Oula, mais Gordon Ramsay, il a une belle voix bien importante.
On va voir Ludo, c'est pas grave, il va nous parler. Et puis, on va parler bien dans le micro pour éviter d'avoir trop de leçons derrière.
Ouais, c'est bon.
C'est bon, Ludo
ba.
C'est bon. Donc là, on va profiter du moment qu'il y a des questions-réponses. On espère que l'ambiance sonore ne va pas trop perturber. Mais bon, à Normandie Bulle, ça n'a pas posé de problème, il n'y a pas de raison là. Donc Ludo, tu vas nous faire un petit retour sur cette deuxième journée, cette deuxième soirée plutôt, de présentation et de projection du festival du film fantastique qui a donné lieu en plus à un palmarès. Donc si tu peux nous en dire un peu plus sur ta participation.
Ma participation ou mon visionnage en fait.
Les deux, enfin tout quoi.
Ouais, donc
tu as participé aux deux journées.
Donc la deuxième journée qui se divisait en deux parties, les courts-métrages d'une part et puis la projection du film Aliens. D'autre part, en version restaurée, numérisée, tout propre, nickel chrome, et voilà, en VO sous-titré.
D'accord.
Donc,
c'est pas facile hein, de parler quand il y a une voix derrière. Hein. Je sens que tu luttes là.
Oui, je lutte contre l'endormissement, je crois.
T'es un peu fatigué là, en fin de crois. Journée.
Et en fait, voilà.
Donc, attends, je vais te le réveiller.
Ah bah ça va mieux, disons, un peu de sang.
Elle lui a montré ses lèvres.
Oui, voilà. Donc voilà.
Ne te laisse pas distraire, Ludo.
Du tout. Donc la deuxième soirée a été un petit.
Ah, tu fais comme quand les acteurs doivent faire quand ils doivent faire croire qu'ils mangent.
La Christine fait un remake de oui, je sais pas. Donc je sais pas moi.
9 semaines et demie.
Ah oui, ça avait été plus proche
la
de
la scène du frigo.
D'accord, ça faisait plus collégienne en chaleur, mais.
Vieille collégienne en chaleur.
Arnaud, fais attention, t'es à côté d'elle là.
J'en ai deux à portée de tir.
Deuxième soirée, quelques courts-métrages. J'ai trouvé que le ton de la deuxième soirée était plus. Un peu plus péchu, ou en tout cas un peu plus.
D'accord.
Pas trash, mais.
Plus sombre.
Plus sombre que la première soirée, qui avait un côté peut-être plus poétique en fonction du choix de la sélection qui a été mise en place pour chaque soirée.
D'accord.
Donc, on a eu quelques courts-métrages, dont un très efficace, j'ai trouvé, qui s'appelait Knock Knock. Donc, un espèce de
coup,
un petit court-métrage un peu d'épouvante, mais très suggéré, très très efficace, très axé sur la bande-son. On a eu un post-apo, un autre, qui s'appelait After All.
D'accord.
Voilà, sympa.
C'était moins
de jeux. Après, voilà, c'est plus au niveau du jeu que j'étais moins convaincu.
D'accord.
En fait. On a eu également un thriller un peu à la française, qui s'appelait Enchaîné.
D'accord. Oui, je les ai.
Voilà, okay. Enchaîné. Alors, ouais, assez sympa celui-là. Une bande de deux délinquants là qui s'introduisent en fait dans une maison, de nuit dans un pavillon. Et parce que le type, l'un des deux personnages installe des alarmes. Et voilà. Et l'idée, c'est d'aller cambrioler derrière. Ces petites frappes quoi. Hein, qui vont donc rentrer dans cette maison, qui vont donc neutraliser le système d'alarme pour piquer des trucs et ils vont descendre à la cave et trouver des trucs qu'ils n'auraient pas dû trouver. Et à partir de là, effectivement, l'histoire peut démarrer. Voilà. Donc il y a des... l'histoire est assez menée, il y a une sorte de retournement de situation finale, donc c'est plutôt plaisant. Mais surtout, il y en a eu deux donc, qui ont été diffusés, qui sont d'ailleurs le prix du festival, d'accord, d'une part, et le prix des effets spéciaux d'autre part. C'est d'abord Frankenstein.
Ah, dont nous avait parlé Margot hier.
Oui, exactement. Frankenstein de Fred Balmer, qui raconte, en fait, qui est une espèce de comédie un peu. Comédie horrifique en noir et blanc sur Frankenstein, sur un personnage, une espèce de savant fou qui va donc créer son Frankenstein à lui. Et donc voilà, c'est beaucoup de situations de comédie. Il y a quelques scènes extrêmement drôles, surtout au début en fait, où il y a vraiment le personnage principal qui joue le rôle du docteur fou et est assez savoureux. Et donc celui-là a reçu le prix des effets spéciaux. Donc se justifier, hein, parce qu'effectivement il y avait pas mal de boulot, travail d'infographie, travail de maquillage, assez sympa, vraiment, vraiment très bien, je comprends qu'ils sortent du lot à ce niveau-là. Et puis après, le prix du festival, qui lui également est amplement mérité, a été attribué à Juliette. Et Juliette, en fait, est un...
Juliette, c'est le nom du
court-métrage.
Du court-métrage, hein, ouais. De la personne qui l'a réalisé.
Juliette. Oui, d'accord. Non, c'est pas du nom de la personne qui l'a réalisé. J'ai plus le nom en tête, désolé.
C'est Marc-Henri Boulier.
Voilà, Marc-Henri Boulier. Et alors là, pour le coup, franchement, c'est vrai que c'est un petit bijou de montage et de construction. Le principe est le suivant, c'est un peu la Real Humans. C'est-à-dire qu'en fait, une société
les
qui s'appelle voilà, une société qui s'appelle Seed, graine, Apple, vous voyez le truc un peu avec un espèce de logo sur l'épaule, ça c'est marrant. Donc crée des objets de plaisir qui sont en fait donc des robots. Et un robot notamment à l'image
de toute ton attention.
Voilà, un robot à l'image d'une femme. Et on va assister en fait, c'est assez marrant, à une espèce de déshumanisation progressive de l'humanité. Et peu à peu supplanté par des robots. Et en fait, donc il commence par le personnage principal, c'est Juliette, qui est donc le robot. Puis on va voir Roméo. Puis on va voir Robert, le grand-père. Puis on va voir les enfants. Et hop, comme ça, c'est assez marrant. Bon, voilà, jusqu'au final. Vraiment, c'est très réussi, même si, après, mon coup de cœur personnel à moi, c'était l'automne de Zao. Mais bon, voilà, après, hein, le vote, c'est le vote. On respecte après le vote du public. Mais c'était vraiment très bien. Juliette est vrai. Je dirais que Juliette aurait été mon deuxième choix. Voilà. Donc voilà. Et puis après Aliens. Et franchement, Aliens, revoir Aliens sur grand écran 30 ans après, ça n'a pas pris une ride, quoi. C'est impressionnant. Le son était nickel chrome. Enfin vraiment, ils ont restauré le son et l'image. Et vraiment, vraiment, c'est impressionnant. Impressionnant. 2h30 de pur bonheur. Donc voilà, un vrai bonheur.
Sigourney ne vieillit pas 30 ans après. Tu te
Alors,
fous ma gueule.
Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, elle avait pris 7 ans, puisque Alien est sorti en 79 et Alien en 86. Donc elle avait pris 7 ans. C'est qui j'en parlais tout à l'heure, qui me disait, bah, c'est vrai que il y avait Sigourney et sa petite culotte dans Alien, et puis il y a Sigourney et son lance-flamme dans le deuxième.
Ok, voilà. Donc tu as passé deux bonnes soirées finalement.
Deux excellentes soirées.
Ouais. Un peu fatigué parce que enchaîner les soirées plus les conventions.
Ouais, c'est.
Tu m'as l'air.
Mais moi ça va encore. Hein. J'ai cru comprendre que
oui.
Certains
oui.
organisateurs du festival en avaient terminé à 4h du matin.
On avait fait l'after au Gibier de Potence voilà, donc, un peu tardivement et levé tôt ce matin, ça pique un peu.
Donc à mon avis, je pense pas que je vais être le plus cramé dans l'histoire.
Non.
Donc, voilà.
Non. Mais en tout cas, tu seras repartant pour le refaire l'année prochaine.
Ah oui, ce serait avec plaisir.
Quand on nous invite.
Comment ?
Oui, puis après.
Encore faut-il qu'on nous réinvite.
Bah, il suffit de demander. Est-ce qu'on sera réinvité l'année prochaine ? Voilà, si
Alex, est-ce qu'on sera réinvité l'année prochaine ?
En tout cas,
d'autres festivals, il y a tellement de choses. Enfin, c'est vrai que c'est. Ouais, bon.
A priori, on est tellement. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait comme remarque depuis hier. On passe un très bon moment. En tout cas, à la convention. On serait plutôt repartant pour l'année prochaine.
Bah
en tout cas,
oui, parce que là, c'est surtout qu'on est au chaud, quoi, en fait.
Ah, on a un repas chaud.
Hein. Ah, on a un repas chaud.
Non, mais en tout cas, merci Ludo pour ton petit retour et puis qui donnera peut-être envie à des personnes. Tu sais dire à peu près la fréquentation ou pas ? environ, à peu près comme ça, pour se rendre compte de ce type de festival, ce que ça amène. Est-ce que c'est la cinquantaine ou 500 non. personnes ou est-ce que c'est
je suis pas très bon à ça en fait. Hein. Honnêtement, il faudrait. En fait, ce serait intéressant de faire un tour là-dessus, de voir avec Alec, avec Alex, je mélange les prénoms. Avec Alex, lui pourra nous dire un peu plus précisément la fréquentation. Ce que je constate juste aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de monde.
Ici, à la convention.
La fréquentation est plus importante. Alors, c'est vrai qu'avec la présence des comédiens qui sont là aujourd'hui, ça a attiré pas mal de gens. Donc, c'est plutôt sympa, c'est vivant. Je vois que c'est dédicace de tous les côtés.
Oui, ça marche plutôt
pas mal.
Plutôt pas mal. Donc, merci Ludo. Et nous, on va continuer. On a encore quelques comédiens de doublage à interviewer. Et puis, on va continuer notre. Alors, j'espère que c'était assez audible, parce qu'avec le bruit qui est derrière, mais bon, on verra bien. À plus.
À ciao.
Allez, bisous.
Donc, on est en présence de Guillaume Orsa et Alice Orsa, sa fille.
Absolument.
Et bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors la particularité, vous l'avez bien compris, je crois aujourd'hui, c'est que tous les deux sont comédiens. Ils sont aujourd'hui ici tout simplement parce qu'ils incarnent des personnages que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, si vous suivez la série Game of Thrones, évidemment, puisque vous allez pas le croire, mais on est en présence d'Arya Stark ici et de l'espèce de limier là qui
au grand cœur. Il vient nous dire qu'il avait un grand cœur.
Alors je vais au grand cœur. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais qui n'a pas vu, mais. Bon bref, Arya et puis le limier ont eu une longue, je dirais,
une longue épopée
ensemble qui s'est terminée comme elle a dû se terminer ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on ne va pas aller plus loin pour ceux qui n'ont
l'idée
pas
c'est
vu.
C'est pas tellement de Paris de Game of Thrones.
Voilà, je n'en sais pas plus que l'auditeur de base, que l'auditeur lambda. Donc voilà, je ne dirai rien parce que je ne peux rien dire.
D'accord.
Alors, pour terminer ma présentation, ça n'est comment je dirais, Alice et puis Guillaume, vous n'êtes pas seulement que Arya ou le limier. Je veux dire, Guillaume a une grande carrière dans le théâtre, d'une part, une carrière où il y a toujours de l'actualité en plus, c'est vraiment une activité qui marche toujours d'une part. Ouais. D'autre part, Guillaume Orsa, c'est aussi Brendan Fraser, entre autres, comme acteur.
Depuis La Momie, oui.
Depuis La Momie,
je le fais à peu près dans tous ses films. Il y a peut-être un ou deux films que j'ai pas fait. Le voyage au centre de la Terre, que j'ai pas fait. Mais par contre, sur le deuxième voyage au centre de la Terre, j'ai récupéré Dwayne Johnson que je double régulièrement.
Et que tu as peut-être doublé pour La Faille de San Andreas.
Absolument.
Ah, absolument. Donc on y est.
Ouais. Je suis pas tout seul à le faire, Dwayne Johnson. On est 3-4 comédiens à le faire. On est surtout 3 à le faire. Et selon les majors, selon les clients, en gros, c'est l'un ou l'autre. Ouais.
Puis j'aurais comme cité, en fait, last but not least, comme on dit, Vin Diesel dans Fast and Furious 1 et 3, je ne dis pas de bêtises.
Oui, et j'ai été remercié.
Comment donc
moins poliment que ça, d'ailleurs.
C'est vrai.
À partir du 4,
Tu pourras nous raconter ça ou pas.
Oui, c'est un truc assez douloureux. Je préfère parler de choses heureuses, comme les grands bonheurs de ce métier, qui sont, par exemple, des choses comme Castle. Ou,
on va en parler, tout à l'heure.
Nathan Fillion.
D'accord.
Non, mais et puis pour les ménagères aussi, on peut parler aussi de Gordon Ramsay.
Et on parle également de Gordon Ramsay.
Cauchemar en cuisine.
Je voudrais juste.
Et puis.
C'est vrai.
Voilà, Gordon Ramsay. Et puis quand même, parce qu'il y a quand même Alice aussi. Alice, ça n'est pas non plus que Arya. Puisque tu as quand même incarné un personnage. Moi je sais que ma fille a adoré Chasing Mavericks. Et notamment, a priori, tu as eu un petit rôle. Tu as Kim Jeune, c'est bien ça, non?
Oui, ça me dit quelque chose.
Un film de surf.
Oui, ça me dit. Oui, voilà, ça commence à me rappeler des trucs.
C'est ça qui est terrible quand on se rappelle plus de ses rôles. C'est... Et puis tu as pas évoqué aussi, mais Guillaume fait aussi du doublage de jeux vidéo.
Oui, et puis
du doublage du
BioShock,
notamment Infinite.
Ouais. Tu as raison.
Alors du doublage, c'est vrai que le doublage de jeux vidéo, c'est moins pointu que le doublage. Qu'on n'a pas de bande rythmo, on enregistre des fichiers souvent séparément. Donc techniquement, c'est assez différent. Mais notamment en effet, BioShock Infinite, Booker DeWitt dans BioShock, le rôle masculin.
Ouais.
J'ai fait le rôle masculin principal également de Infamous 1 et 2, donc il s'appelait, je crois, Cole McGrath, on me l'a rappelé tout à l'heure. J'ai fait aussi Far Cry 4, un grand méchant dans Far Cry. Et en fait, je me rends compte, grâce à Far Cry 4 d'ailleurs, que en fait, il y a des comédiens américains qui bossent énormément dans le jeu vidéo Et en fait, je le savais pas, parce que autant je sais que je double Brendan Fraser, Peter Krause ou Nathan Fillion, mais je me rends compte que je suis aussi la voix attitrée d'un comédien qui ne fait quasiment que du jeu vidéo. Et on me dit, mais si, c'est le comédien que tu as doublé dans Infamous, c'est le comédien que tu as doublé dans Bioshock, c'est le comédien, voilà, ton mec de Far Cry, c'est le même
c'est
que dans
tel truc.
Voilà, donc je me rends compte, mais je sais même pas le nom du mec.
Donc, ouais, t'as cité aussi Peter Krause, qui est dans Six Feet Under, une série qu'on aime beaucoup autour
de la table. Depuis Six Feet Under, oui, ça c'est toujours moi, et ça, c'est un immense bonheur de retrouver ce mec-là, parce que je trouve que c'est un comédien.
En plus, il a un sacré charisme, et puis.
Il a un sacré charisme, et puis il a une façon, je dirais, quasiment féminine d'aborder ses rôles, c'est-à-dire qu'il est, pas du tout dans le côté. Dans le côté évidemment biscotto à la Dwayne Johnson ou à la Vin Diesel,
c'est autre chose. Oui.
C'est autre chose. Mais il n'est pas non plus dans le côté fragile d'un Jude Law que j'ai pu doubler également à 4 ou 5 reprises, ou d'un Hugh Grant que j'ai fait 2 fois par exemple.
C'était Bienvenue à Gattaca, non, Jude Law?
Ouais, Jude Law. La première fois, c'était Bienvenue à Gattaca. Ouais. Superbe film.
Ah oui, également.
Un film magnifique. Ouais. La dernière fois, c'était avec Emmanuel Carsen, que vous avez eu tout à l'heure.
D'accord.
Dans Les Fous du Roi, où moi je faisais Jude Law et lui faisait Sean Penn. Le rôle le plus bavard du film, c'était Jude Law, mais le rôle à Oscar, c'était Sean Penn.
Présentation, j'ai oublié juste une petite chose, c'est que tu es également directeur artistique sur le doublage de séries, quand même, enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, et je crois les gens autour de la table ici, assez mythique comme aidez-moi, j'ai Breaking Bad,
ouais.
Aidez-le.
Et Better Call Saul aussi.
Et Better Call Saul.
Donc d'accord. De toute façon, c'est le même client, et que mon client a été tellement heureux du doublage de Breaking Bad, il se passe quasiment pas une semaine sans qu'il m'envoie un mail en me disant ton doublage de Breaking Bad. Donc c'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur. Et donc il a voulu à tout prix que je fasse Better Call Saul, et comme j'avais un planning assez rempli à ce moment-là, on a bidouillé mon planning pour que ça rentre dans les cases, et c'était super cool de sa part, quoi. Et puis je fais des choses plus grand public comme Grimm par exemple, pour Sci-Fi et NT1 ensuite. Je fais Arrow qui passe sur TF1. Je fais une série Netflix qui s'appelle Bloodline, qui est magnifique. Better Call Saul, c'est aussi pour Netflix. Et je fais une série de Canal+, puis TF1, qui est une série Marvel, qui est très très belle, qui n'est pas encore diffusée, je crois, ou peut-être qu'elle l'a été sur Canal, je sais pas, qui s'appelle Agent Carter. La fiancée de Captain America.
Ah oui,
et cette série est magnifique. Chaque épisode, c'est du 35. Et voilà, je pensais qu'il y aurait pas de suite. J'ai fait 8 épisodes l'an dernier. Je pensais qu'il n'y aurait pas de suite, parce que chaque épisode, il y a une telle débauche de moyens, il y a tellement de fric à l'image, que je me disais, ils vont pas avoir les moyens d'en faire une deuxième. Et puis en fait, ils réattaquent, là, a priori, au printemps prochain.
Comme adaptation Marvel, elle a plutôt bonne presse.
Superbe. Et vraiment, au niveau look, ça se passe en 1946 et il manque pas un bouton de manchette, pas une paire de bretelles.
Les costumes sont magnifiques.
Il y a des vues de New York avec des bagnoles d'époque à l'infini, le métro aérien qui traverse l'avenue, les buildings d'époque et tout, c'est somptueux.
C'est le pilote qu'on avait vu.
Non, c'est pas celui-là. Toi, tu l'as pas vu, le pilote d'Agent Carter. Je suis désolé, mais.
Ouais, puis c'est chouette, parce qu'en plus, tous les méchants sont des méchants de Perrette, un peu. Enfin, il y a un côté.
Très sérial, quoi.
Ça se passe en pleine guerre froide, pleine après-guerre. Donc, les Russes, ils ont des accents russes de Perrette. c'est très rigolo, et c'est très chouette. Très, très chouette.
Oui, vas-y. Du coup, j'ai une question. Alors, on va essayer d'alterner, puisqu'on est avec vous deux, puisqu'effectivement, les parcours sont.
Forcément différents.
Non, mais on va équilibrer en allant l'un à l'autre. Je voulais juste savoir sur la fonction de directeur artistique, puisqu'on parle donc de directeur artistique, la réalité concrète de cette fonction, c'est quoi exactement? C'est s'assurer du casting, de l'ensemble du casting, de s'assurer que les voix collent, c'est quoi exactement?
En fait, il y a donc par exemple une chaîne de télévision, TF1, M6, qui commande le doublage de telle série à une société de doublage qui va être une société prestataire de services.
C'est donc les chaînes qui commandent directement, en fait.
Oui, exemple, TF1 donne à telle société de doublage la mise en chantier du doublage intégral de la série Arrow ou Grimm. Voilà. La société de doublage propose, soit ils se mettent d'accord tout de suite sur un nom de directeur de plateau, soit la société propose 2-3 noms de directeur de plateau, et TF1 ou M6 disposent décide du nom du directeur de plateau, parce que le casting d'un directeur de plateau, c'est particulier, on peut pas mettre n'importe qui sur n'importe quoi. Moi, par exemple, une fois, j'ai fait un truc, un téléfilm ultra violent, où c'était, j'avais l'impression d'avoir affaire à des mises à mort en direct, tellement c'était violent, à du snuff movie quasiment. Ah, oui. Et vraiment, j'ai pas été heureux de faire ça, quoi. C'est pas du tout mon truc. Et donc, le directeur de plateau en question va gérer le doublage de telle série de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de proposition de casting, proposition de voix, savoir sur quel comédien la chaîne souhaite qu'il y ait des essais. Donc à ce moment-là, il y a 3-4 comédiens qui viennent passer les essais sur tel rôle. Si la chaîne est insatisfaite des 3-4 essais, peut redemander 3-4 essais supplémentaires avec d'autres comédiens, revenir à des essais de la première volée. Enfin, la mise en chantier d'une série est toujours assez complexe, laborieuse, lourde, problématique. Moi, je sais que c'est toujours des moments de grand stress à la maison. Une fois qu'une série est sur les rails, après, en principe, ça roule. Il y a toujours un épisode par-ci par-là qui, tout à coup, pose problème parce qu'il y a plein de nouveaux personnages qui arrivent qu'il faut remettre en chantier, voilà. Mais donc, et après, donc le directeur de plateau fait son, une fois son casting établi, prend les disponibilités des comédiens, gère un plan de travail pour que, en effet, pour des raisons à la fois économiques et parce qu'on a intérêt à faire venir chaque comédien le moins longtemps possible. Et des raisons techniques, parce qu'on peut pas mettre 8 personnes en même temps au micro, donc on met 2-3 personnes au micro, 4 grand maximum, voilà, ou sinon après on fait des pistes à part, et voilà, pour que chacun soit bien centré par rapport au micro. Et donc le directeur de plateau fait son plan de travail pour que chacun reste le moins longtemps possible, et ensuite c'est les enregistrements. Après les enregistrements, il y a une partie également où les auteurs adaptent le texte, et il y a notamment aux attaques de série ce qu'on appelle une vérif prévue avec les auteurs, c'est-à-dire que le directeur de plateau s'enferme pendant une durée souvent assez longue avec les auteurs, et l'auteur lit sur un écran, lit son texte synchrone au maximum. Alors évidemment, l'adaptateur, il n'est pas forcément comédien, donc c'est souvent pas très bien joué, mais en tout cas, on voit si c'est synchrone, si ça parle français, si ça se répond bien, s'il n'y a pas de faute de grammaire. Moi, je suis très sensible aux fautes de grammaire, j'essaye de ne jamais faire une faute d'orthographe, donc je sais pas, je suis très sensible à ça, donc j'essaye de faire quelque chose qui va parler du bon François
qualitativement,
voilà,
réussi,
et il y a des choses que je supporte plus d'entendre en doublage, et quand je les entends ça pique l'oreille, voilà, mais bon, ça c'est moi, hein. Les autres font ce qu'ils veulent, mais ça c'est moi. Et puis après c'est les enregistrements avec les comédiens sur une durée qui est sur de la série souvent assez courte. On fait environ un épisode en un jour et demi. Par exemple, sur Breaking Bad, on m'avait proposé un jour un épisode. Quand j'ai vu la teneur psychologique de Breaking Bad, j'ai dit non, c'est des 50-55 minutes. Bien que ça parle assez peu, c'est quand même psychologiquement, c'est pas des flics qui disent tout le monde au sol, les mains en l'air, quoi. Tout le monde à terre, les mains sur la tête, quoi. Pas du tout. On est quand même dans un truc psychologique un peu plus forcé. Et donc j'obtenais un peu plus de temps à chaque fois. Better Call Saul, j'ai aucun problème. Arrow, c'est assez short parce que Arrow, il y a beaucoup de monde, mine de rien, et c'est pas forcément très bavard, mais il y a beaucoup de monde. Donc c'est un peu chaud, Arrow. J'ai un jour, un quart, un jour, un tiers par épisode, à peu près. Castle, par exemple, on a un jour et demi, parce que Castle, c'est tellement bavard que, qu'à moins d'un jour et demi, ça rentre pas, quoi.
Ça t'arrive souvent de devoir refaire des prises, plusieurs prises sur un même, ou généralement, c'est quelque chose qui roule quand même assez.
Non, généralement, c'est quelque chose qui roule parce que, sur de la série notamment, les comédiens, au bout d'un moment, connaissent très bien leur personnage. Mais évidemment, on refait des prises quand il y a besoin d'en faire des prises, quand ça accroche, quand ça bafouille, quand l'intention de jeu n'est pas là, quand le rythme est un peu trop rapide ou au contraire un peu trop lent. On peut directement en plateau remettre des phrases en place pour qu'elles deviennent synchrones, à condition qu'elles soient dans le rythme de la phrase. Il y a des comédiens, par exemple, qui démarrent leur phrase un peu en retard par rapport au mouvement de bouche, mais s'ils terminent un peu en retard aussi, on remonte la phrase, comme on dit, de 2 ou 3 images à gauche, et hop, c'est dans l'image. Voilà. Mais généralement, c'est pour ça que la série, on essaye au maximum, c'est malheureux à dire, mais on essaye au maximum de prendre des comédiens qui vont être très aguerris et dont on sait qu'ils vont être efficaces parce qu'on a des délais très courts. Moi, j'ai dirigé 4 ou 5 35, par exemple. Sur de la série, on a 40 boucles à la demi-journée, à peu près. Sur du 35, on se retrouve avec 15 boucles à la demi-journée. Donc, on a beaucoup plus de temps pour travailler. Et donc, on peut se permettre de prendre des risques sur des comédiens peut-être moins aguerris, mais à l'arrivée, ça va créer une fraîcheur qu'on n'aura plus forcément en série. Mais c'est vrai qu'en série, ce qu'il faut, c'est à la fois prendre des gens efficaces et en même temps qui vont avoir cet enthousiasme et cette gourmandise qui vont faire que on va avoir un résultat de grande qualité. Par exemple, sur Grimm, j'ai une équipe... imparable, quoi. Non, mais enfin bon, je parle de Grimm, mais
sur d'autres aussi.
Si mes petits camarades des autres séries m'entendent, ils vont se vexer. Non, sur toutes mes séries, j'ai des super équipes. Mais c'est vrai qu'en règle générale, j'essaye de bosser avec des gens sympathiques et qui viennent bosser avec plaisir, quoi.
D'accord. Donc, tu voulais dire, Arnaud,
finalement, c'est un rôle de. Est-ce qu'au niveau du doublage, c'est un rôle de metteur en scène, c'est-à-dire de choix d'équipe?
Oui, ça peut se comparer à un rôle de metteur en scène au théâtre, à un rôle de réalisateur au cinéma. C'est un peu le grand Manitou de.
C'est toi qui vas juger du fait que si l'intention est bonne.
Il n'y a que un cas où personnellement j'ai refusé. C'est par exemple sur des choses qui se sont en partie tournées en France. Je pense à Versailles, par exemple, que j'ai refusé. Parce qu'il voulait le directeur de plateau de Breaking Bad sur Versailles et ça rentrait pas dans mon planning. Le fait est que ça rentrait pas, j'avais trop de travail, je voulais garder un peu de place pour Better Call Saul justement. Et donc ça rentrait pas l'an dernier Versailles. Mais en plus je voyais le coup venir que comme il y a quelques réalisateurs qui sont francophones ou français, qu'il y a pas mal de comédiens qui viennent se post-synchroniser, notamment des comédiennes. Parce que je crois que c'est assez déshabillé comme série. Donc il y a des comédiennes qui sont sans doute très jolies, mais qui n'ont pas forcément le talent de leur plastique. Voilà. C'est sur mon temps, ça va être terrible.
On est écouté par ma grand-mère.
Et donc, c'est typiquement le genre de circonstance où le directeur de plateau se retrouve uniquement à faire des plans de travail et à donner les time codes à l'ingénieur du son en disant maintenant on va à telle boucle, à tel time code.
Tu aurais perdu le côté artistique.
Ce sont les réalisateurs qui dirigent, en gros.
D'accord.
Et donc, quand même, la partie la plus intéressante, la plus enthousiasmante du métier, c'est le casting d'une part, donc là on en est dépossédé, et la direction artistique d'autre part. Et étant dépossédé de l'un et de l'autre, vraiment ça m'intéressait pas.
Oui, Ludo.
Si tu voulais poser une question.
Je voulais un petit peu parler à Alice justement, parce qu'on a beaucoup entendu.
C'est ce que je voulais dire. On m'a oublié, mais je suis là.
L'idée, c'était un petit peu de dire, on voit que Guillaume, lui, est très très chevronné en la matière, et toi, tu es beaucoup plus jeune, forcément. 16 ans, si j'ai bien retenu. Comment on tombe dedans? Enfin, à part le fait que papa fasse ça, mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais récemment? Est-ce que tu as commencé avec Game of Thrones? Est-ce que c'est quelque chose de plus ancien? Comment tu y es venu? Est-ce que tu as dû faire des castings ou est-ce que le nom ouvre des portes plus facilement? Voilà, sans aucun préjugé. Comment toi tu vis ce travail en plus certainement peut-être encore de tes études en parallèle, etc. quoi.
Ouais.
Alors non. Non, je me tais.
Ah, c'est très bon ça. Laissez-moi.
Alors, j'ai pas du tout commencé avec Game of Thrones. J'ai commencé avec une série qui passait sur M6 qui s'appelle Medium. C'était il y a 10 ans.
10 ans, ah oui,
donc t'étais très jeune. J'avais 6 ans.
D'accord.
On peut calculer par rapport à mon âge. Je fête ma 10e année dans le doublage.
C'est génial. D'accord.
C'est un anniversaire précieux.
Déjà, chevronné.
Félicitations, en tout cas.
Merci beaucoup. J'ai pas eu à passer de casting pour commencer. C'était une directrice de plateau qui venait de recevoir donc la série en question, Medium, et qui avait besoin d'enfants, de petites filles pour jouer les petites filles de l'héroïne. Et elle est tombée sur le répondeur de papa que j'avais enregistré quand j'étais petite et que j'enregistrais les répondeurs de téléphone de mon père. Voilà, c'est comme ça. Elle est tombée dessus. Elle a trouvé que j'avais une voix sympa, visiblement. Elle a demandé à papa si je faisais du doublage, un peu de théâtre éventuellement. Papa m'a demandé si j'en avais envie d'essayer. Moi, haut de mes 6 ans, j'ai fait OK, sans problème. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a continué. Parce qu'il y a des enfants qui commencent, qui se rendent compte qu'ils n'aiment pas trop ça, donc ils arrêtent au bout d'un moment. Voilà, moi ça continue, je pense que c'est bien parti pour continuer un petit bout de temps.
Parce qu'il faut en plus avoir un sens de la comédie, je veux dire, c'est pas... Encore une fois, on a eu cette discussion-là tout à l'heure avec toutes les personnes, vos collègues, qu'on parle bien de comédie, de comédien, rôle, d'incarnation. Donc
c'est pas juste poser une voix, quoi.
Donc je veux dire, donc j'imagine qu'en plus, arriver à Arya Stark, on n'y arrive pas si on n'a pas un minimum le sens de la comédie, à mon avis.
Quand on a 6 ans, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est que la construction d'un personnage.
Je ne savais pas lire, en fait, quand j'ai commencé.
Ah oui, ça fait à peine lire, c'est-à-dire que... Alors souvent, les petites filles dans ce genre de choses, elle parle très peu. Donc en fait, c'était du phrase par phrase. Oui. On lui disait la phrase avant, et puis au moment où la phrase arrivait, on lui tapait sur l'épaule, et puis
elle disait
la
phrase,
on la replaçait, quoi. Et donc, voilà, ça a été pareil avec sa petite sœur,
qui
a commencé à 5 ans et demi, qui fait la toute petite fille de l'héroïne dans Medium. Voilà.
Mais je crois que ta mère, enfin votre épouse, est aussi, aussi comédienne. Donc c'est vraiment une famille de comédiens.
Oui, notamment dans Castle. Voilà. On œuvre ensemble dans Castle.
En famille.
Ouais. Enfin, ma petite sœur se dirige plutôt vers l'illustration, l'animation, tout ça. C'est plus son truc.
D'accord.
Voilà, elle en fait un petit peu de temps en temps. Voilà. Alors on n'a pas du tout le même genre de voix. Limite, elle a une voix plus âgée que la mienne.
C'est vrai.
Oui, il n'y a pas longtemps, on a enregistré un conte de Noël qui va être lu à des enfants, etc. Et on a enregistré ça et il y avait entre autres des rôles d'enfants. Et ma petite sœur a fait le rôle d'un petit garçon de 9 ans. Et j'ai fait le rôle de la petite fille de 6 ans. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point nos voix sont différentes, même si on a 3 ans et demi d'écart, qu'elle est plus jeune que moi de 3 ans et demi.
C'est génial.
Mais à 6 ans, quand on fait comme ça du doublage, là, les deux petites filles, bon, on est guidé, dirigé, parce qu'effectivement, tu savais pas lire. Reste que c'est pas très lui. Enfin, c'est pas que c'est pas ludique, mais ça reste un film. Autant ça aurait été un dessin animé, c'était peut-être plus attractif.
Ça nous aurait plus parlé.
Mais c'est que quelque part, le fait de baigner dans le milieu, ça joue sûrement un petit peu, non ? À 6 ans quand même.
Peut-être.
La curiosité de savoir ce que faisait papa, maman, vraiment, et de le vivre.
Ça doit être ça.
Oui, il y a ça. Et puis il y a le fait que les directeurs de plateau, quand ils ont des enfants à caster, ils pensent en premier aux enfants des gens avec qui ils bossent tous les jours, c'est-à-dire des copains comédiens.
C'est logique.
Donc c'est vrai que voilà.
Ah, d'accord.
Donc,
même là, c'est réseau et compagnie. D'accord. Piston, bravo, super.
Cette directrice de plateau, Nathalie Rimbaud, a entendu la voix d'Alice sur répondeur. Moi, je vous dis pas le nombre de rôles que je me suis coupé en faisant enregistrer mon répondeur par ma fille. Ça, c'est un autre problème. Ah, j'aurais pu faire une belle carrière.
C'est un sacrifice pour une gloire.
Oui, Ludo. Moi, j'ai une question. C'est comment, alors pour le coup, pour revenir sur Game of Thrones, du coup, vous avez travaillé ensemble. Et alors, en plus, dans Game of Thrones, sur deux personnages qui sont en plus très antagonistes, avec des scènes, je dirais, même assez violentes entre les deux personnages. Comment ça se passe entre père et fille ? Enfin, chacun votre point de vue par rapport à ça. Comment vous avez vécu la chose ? Est-ce qu'on s'éclate vraiment ? Parce que finalement, c'est vraiment marrant, quoi. Il y a une espèce de jeu de rôle comme ça. Est-ce que c'est pas forcément facile ? Enfin, comment vous vivez le truc ? Alice, comment toi, tu as appréhendé la chose ?
Alors, moi, j'ai... En fait, tout du long, j'ai trouvé ça assez amusant. Parce que c'est vrai que Arya a une certaine haine envers le limier.
C'est un peu comme ça qu'on l'avait ressenti.
Voilà,
aussi.
Elle a une certaine haine. Il a massacré son meilleur ami. Elle lui en veut. Elle lui en veut à mort.
Il est sur sa liste en tout cas.
Oui. Il est sur sa liste.
C'est pas bon signe.
Du coup, il s'envoie des. C'est même plus des pics à ce niveau-là. Il s'envoie des menaces de mort constamment. Et c'est assez drôle de jouer ça avec son propre père, surtout quand on l'aime.
Quand on est dans l'âge de l'adolescence et tout ça.
Non, c'est amusant de jouer ça avec son propre père. Tout d'un coup, tu vas dire à ton père « je vous emmerde » de manière très froide et tout à fait normale.
Oui. Sans que ça prête à conséquence. Ouais, voilà.
Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment uniquement dans le cadre de la comédie. Après, c'est vrai que bon, je pense que de base, on a une petite alchimie comme on est père et fille.
Bien sûr.
Du coup, dès qu'il s'agit d'un dialogue ping-pong où il se renvoie vraiment des répliques secs, méchantes comme ça, c'est pam pam pam, il se renvoie des répliques comme ça. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on a déjà une petite alchimie avec la personne avec qui on joue.
Pas d'appréhension avant de commencer, pas eu d'appréhension de se dire « Ah, j'ai bossé avec mon père qui, en plus, peut-être parce que c'est ton père que tu le connais, donc tu n'aurais peut-être pas une appréhension que quelqu'un d'autre aurait eu peut-être.
Pas spécialement, parce que généralement quand j'enregistre, je sais que je me rends compte que papa c'est Guillaume Orsa, il a un CV incroyable, etc.
Oui, ça peut jouer pour des gens qui...
Bien sûr. Faut se le dire, t'as un CV assez impressionnant.
Soyons clairs, papa.
Arrête de déconner 5 minutes.
On voit la réalité en face. disons qu'à chaque fois, quel que soit le rôle, quel que soit le produit, j'essaie de faire un peu du mieux que je peux. Donc... pas spécialement d'appréhension. D'accord. Voilà, si ce n'est celle du challenge, parce qu'à chaque fois enregistrer Game of Thrones, pour moi, c'est un peu un challenge, comme l'émotion est parce qu'à côté je fais de la sitcom Disney Channel, donc évidemment dès qu'on va sur Game of, à côté l'émotion est super subtile, tout de suite c'est deux opposés, le surjeu de la sitcom Disney Channel et l'émotion subtile et la construction de personnages complexes dans Game of, donc évidemment il y a ce challenge là qui subsiste et qui subsistera sur un peu chaque saison pour moi je pense, parce que j'ai pas fait d'école de théâtre, on m'a pas appris vraiment à construire un personnage, j'essaie de faire ça petit à petit de mon propre gré et du coup voilà, c'est à peu près le seul challenge, sinon travailler avec papa c'est pas spécialement une appréhension ou quoi que ce soit.
Et toi Guillaume ?
Moi je suis impatient que dans quelques années, quand elle aura fait des études de théâtre et qu'elle sera devenue une grande metteuse en scène, qu'elle me mette en scène.
Ah oui,
j'adorerais ça.
C'est de l'investissement pour l'avenir, ça.
Absolument. Absolument.
Et sinon Alice, toujours j'ai une petite question par rapport à Aria, je reviendrai juste après. Quand on est dans le voilà, à 16 ans, que tout, c'est quand même un phénomène, Game of Thrones, hein, on s'en rend compte, etc. Et que nous, on est dans la réplique, dans le travail, dans une autre approche que la consommation, entre guillemets, artistique. Est-ce qu'on n'a pas un ras-le-bol à un moment, avec ces camarades qui, eux, sont dans le visionnage, de se dire, ouais, mais moi, c'est un boulot et j'ai du mal encore à trouver la passion, entre guillemets, ce qui peut être, des fois, on a la réflexion entre notre passion qui devient un travail, du coup, on n'a plus tout à fait le même rapport à l'œuvre originale, en fait. Ou est-ce que tu continues toujours de t'émerveiller à découvrir épisode par épisode, de dire je suis toujours pris dans l'histoire, c'est pas une routine quoi, voilà.
Ouais, bah ça serait plutôt cette dernière proposition. Game of, c'est vrai qu'ils arrivent à me surprendre à chaque fois, ils arrivent à m'intéresser à ce que je vais jouer. Bon, en plus j'ai noué un lien avec Aria depuis le temps. J'ai noué un lien avec le personnage depuis le temps qui fait que je m'intéresse encore plus à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit, à comment elle évolue, etc. Game of Thrones, pour moi, ça pourrait pas vraiment devenir une routine, parce qu'en plus, c'est à tout casser 4 jours par an. C'est 4 fois 2 heures par an ou quelque chose comme ça. C'est très peu, du coup, on en redemande à la fin, évidemment.
D'accord, c'est plutôt l'inverse, une frustration de ne pas en faire plus, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que Game of, en plus, c'est une série très chorale, quoi. Donc, les personnages sont emblématiques. C'est vrai que Arya, il y a plein de jeunes filles qui s'identifient à Arya, ou qui s'identifient à Daenerys, ou qui s'identifient à Tyrion, ou tel personnage. Mais en fait, pour chacun des personnages, les rôles sont minuscules. Oui. Moi, je vois les contrats d'Alice quand elle revient à la maison. Elle n'a jamais des gros lignages par rapport. Ouais. Par exemple, Castle, c'est monstrueux. Les lignages de Castle, c'est énorme. Mais c'est vrai que sur Game of Thrones, il y a absolument pas ça.
C'est tellement séquencé par zone.
Moi, le limier, il y a eu quelques épisodes de la saison 4 où il a un peu causé parce qu'on chevauchait ensemble.
Ouais, plus drôle que jouer, en plus.
Voilà. Mais il est un peu taiseux comme garçon. Non, ce qui est drôle dans ce que je voulais raconter, c'est juste anecdote, parce que sur Game of, en fait, au départ, moi, j'étais pas prévu du tout. J'avais pas été casté du tout, et c'est un jour le directeur de plateau de Game of Thrones, Laurent Dattas, m'appelle en me disant est-ce que ta fille, etc. Donc bon, on dit ok, et Alice, donc il avait casté Alice sans essai, sans rien, donc Alice faisait Arya dans Game of Thrones.
Peut-être qu'il regrette.
En même temps, au début de Game of, on ne savait pas quel personnage allait rester, pas rester, etc. Enfin, le truc de genre de série,
c'est un peu qui
est le prochain.
Le sort,
voilà.
Après sa force.
Et donc, moi, au départ, je ne faisais que... Bah, t'avais 11 ans, je crois, quand on a commencé Game of Thrones.
Avec
et
ma petite voix.
Voilà, avec la petite voix.
Je ne veux pas devenir une dame.
Elle avait 11 ans. Et donc, elle avait 11 ans et moi, je faisais taxi, quoi. En gros, je l'accompagnais en plateau. C'était des plateaux, en plus, qui sont à Épinay-sur-Seine, dans un quartier un peu qui peuvent être un peu chaud. Donc, je faisais taxi, je l'accompagnais. Maintenant, elle va en plateau toute seule. Mais à l'époque, elle n'y allait pas toute seule. C'était soit sa mère, soit moi, soit... Quand aucun des deux ne pouvait,
taxi ou
une babysitteuse, Et dès la première volée d'épisodes de Game of Thrones, le directeur du plateau qui avait fait les petits rôles ambiance la veille avec toute une équipe de comédiens, il savait pas du tout que le limier allait devenir ce qu'il est devenu par la suite.
Ah, oui.
Et donc il me dit, écoute, il y a un comédien là qui m'a fait ce rôle dans les petits rôles ambiance. C'est bon, il est bien, hein, mais c'est quelqu'un qui débute. Si par hasard le rôle devient un peu important, vu le temps qu'on a mis pour faire les trois lignes du limier. Je crains un peu pour la suite, si par hasard le personnage devient important, tu me les referais à la volée. Donc je lui ai refait les trois lignes en question à la volée.
Quelle?
Et puis il est revenu un petit peu. Au début, sur deux saisons, on n'était jamais ensemble. Donc j'accompagnais Alice, je faisais taxi avec Alice. Puis j'y retournais pour faire mon rôle, soit le même jour, soit un autre jour. Et puis en troisième, quatrième saison, ils étaient tout le temps ensemble.
Ça,
et on a chevauché ensemble. Et en effet, ce côté ping-pong des dialogues, je pense que ça nous a servi d'être perfis pour ça. Enfin, il y a des échanges, je les ai plus en tête, mais les échanges qui se terminent, par exemple, par une phrase du Limier, culte, en disant « les gens sont des cons » ou « le roi, je l'en... » le sodomise.
Ouais, effectivement,
par exemple. Il y a quelques échanges qui sont assez gratinés, ouais. Ouais.
C'est comme une chouette expérience. Enfin, de pouvoir partager ça ensemble, c'est quand même un moment.
Et même dans le travail, moi, je suis en famille. Ouais. Game of Thrones avec ma fille, Castle avec ma femme.
Castle est avec ta femme.
Oui, absolument.
Et depuis cette semaine, si j'ai bien compris, ou récemment, dans The Walking Dead aussi, un petit rôle.
Alors. Pas enfin depuis cette semaine oui mais
ça pas duré longtemps.
Il est venu voilà sur un épisode mais moi je vois les épisodes sur OCS
d'accord.
Avant en H+24 et j'avais repéré ce personnage et quand le directeur de plateau de Walking Dead m'a appelé il sait très bien que je suis très fan de la série et il m'a appelé en me disant je savais qu'il était dans cette zone là je lui dis ouais je crois voir le personnage que tu m'as donné je pense qu'il va pas mal m'aller et en effet il m'allait pas mal mais il s'est fait croquer direct
d'accord oui Arnaud
justement par rapport au H+24 en tant que directeur artistique est-ce que ça change quelque chose à ton job c'est-à-dire est-ce que les comédiens finalement ont vu potentiellement la série chez eux en H+24 la connaissent avant les doublages.
Alors moi je en tant que DA je ne dirige pas de série H+24 les séries non pas que je sache non sur OCS j'en ai aucune moi en tant que directeur de plateau. D'accord. Mais en effet par exemple Laura Zichy que vous avez eu tout à l'heure qui fait Michonne dans Walking Dead, elle est comme moi, elle les voit 24 heures après la diff américaine et donc elle arrive en plateau pour doubler son rôle 10-15 jours après la diff américaine, donc elle sait ce qu'elle a à jouer quoi. Ouais. Ouais, ouais.
D'accord.
Ludo. Et c'est pas mal aussi, c'est pas mal de savoir.
Tu parlais tout à l'heure de Castle, qui manifestement est quelque chose qui te tient à cœur, en tout cas c'est comme ça qu'on le ressent.
Oui.
Et je serais curieux de savoir quel est le personnage, le rôle ou la série qui t'a marqué le plus, enfin qui vous a marqué le plus pour chacun, en tout cas de ce que vous avez pu jusqu'à présent jouer.
On en parlait tout à l'heure. Moi, indiscutablement et sans l'ombre d'une hésitation, Six Feet Under. Ouais.
Toi aussi, ça t'a marqué.
Et ce qui est marrant, c'est que parfois, je retombe sur des épisodes de Six Feet Under, donc je réécoute certains passages comme ça qu'on a fait. Et je crois qu'il y a un problème de mixage en Six Feet Under. Le mixage a été pris super présent. C'est bizarre. On a l'impression qu'on est dans une espèce de tonneau, quoi. C'est très bizarre.
D'accord.
Mais ça reste un bon doublage.
Ça reste un bon.
Six Feet en tant que comédien et Breaking Bad en tant que DA. Ah,
d'accord. D'accord.
Ouais.
Et toi, Alice?
J'ai pas énormément d'expérience plus pour parler de ce qui m'a marqué. Mais, disons que le rôle qui me marque le plus, ça reste Arya. Ça reste Arya.
Tu as un petit rôle dans World War Z, je crois aussi.
Ouais, c'était. C'était vraiment un petit rôle, effectivement. Je sais plus exactement. Je crois qu'elle était asthmatique, la jeune fille, qu'elle faisait des crises d'angoisse. Et souvent, quand ce sont des respirations, etc., ça reste dans la version internationale, donc dans la VI. C'est pas toujours des trucs qu'on a enregistrés. Tout comme, par exemple, dans la saison 4. Je vais éviter le spoil, mais quand Arya et le Limier arrivent à la porte sanglante, donc aux éveillés, pour que le Limier livre Arya à sa tante, et qu'Arya a cet immense éclat de rire qui résonne dans l'espèce de canyon. Cet éclat de rire était dans la version internationale.
D'accord, tu n'as pas le
rôle. J'aurais voulu le faire. J'aurais voulu.
C'est un petit kiff, quoi.
Je l'ai vu en VO. J'ai vu Maisie Williams éclater de rire. Je me suis dit, oh yes, je vais m'éclater là-dessus. Et puis, j'entends le directeur de plateau qui fait, c'est dans la VI, ça? C'est dans la VI, on le garde.
Ah, la frustration. Et j'étais
frustrée, là.
J'ai failli j'ai pleuré, d'ailleurs.
Ah oui.
J'ai pleuré, papa et maman s'en souviennent. Et j'étais frustrée à ce point. Et j'aurais voulu vraiment le faire parce que c'est une part tellement importante du personnage. Et...
Bien sûr.
Voilà, donc Arya est un rôle qui m'a vraiment beaucoup marquée. Après, dans les rôles qui m'ont permis d'évoluer, par exemple, il y a Arya qui a fait une grosse partie du boulot. Aussi j'ai doublé la petite fille de Porcelaine dans Le Monde Fantastique d'Oz, la dernière adaptation du Magicien d'Oz de Disney. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec Hervé Bellon, qui est un directeur de plateau qui demande énormément de précision sur le jeu, et du coup ça m'a permis d'affiner vraiment le jeu, d'aller au fin fond de la subtilité. Et c'est un très très bon exercice, c'est un super bon exercice. Ensuite, évidemment, on vit l'expérience de la sitcom, du Disney Channel. Donc là, si tu veux surjouer, lâche-toi.
Ah, t'es dans les extrêmes, là, ouais.
Voilà, entre Aria et, par exemple, Emma, que je fais dans Jessie et dans un spin-off qui s'appelle Banked et qu'on est en train d'enregistrer en ce moment, ces deux rôles, ce sont des opposés très nets. Aria, qui a son esprit de vengeance constant, qui est assez garçon manqué, il faut le dire, qui veut pas devenir une dame, qui veut se battre, etc. Et ce rôle dans ces sitcoms Disney Channel, qui ne pense à rien d'autre que mode et shopping.
Ouais, c'est survitaminé, quoi.
Et qui devient de plus en plus bête au fil des saisons, d'ailleurs. On est un peu sur deux extrêmes. C'est intéressant, d'ailleurs, de doubler deux extrêmes, mais c'est vrai qu'au niveau de l'évolution et de l'enrichissement personnel, c'est rien qui m'a le plus marqué.
D'accord. Oui, bah, très bien. Juste avant, une dernière question, s'il y a juste des projets, est-ce que vous avez des projets qui sont en cours, une actualité là, qui arrive prochainement pour l'un ou l'autre, des choses à venir dans les semaines qui viennent?
Moi, je reprends dans quelques jours à peu près les mêmes séries que je faisais l'an dernier, c'est-à-dire Grimm, alors par ordre d'entrée Arrow, en scène, aussi, Grimm, Arrow, Better Call Saul à partir de janvier. Mmh. Après j'ai Bloodline pour Netflix qui revient, qui est vachement bien, avec Sissy Spacek, qui est une équipe d'enfer. C'est fait, je sais pas si vous avez vu Festen, mais c'est Festen sous les tropiques. C'est très très beau.
Et dans ma liste c'est Netflix dur. Mais je l'ai pas encore attaqué.
Et Agent Carter.
D'accord.
Ça c'est les 5 séries que je dirige. Après il peut y avoir des choses ponctuelles qu'on peut me proposer, un téléfilm, etc. Mais là il reste plus beaucoup de place. J'ai les Castle, je reprends les Castle saison 8 je crois dans quelques jours.
Ouais, déjà.
Et puis autrement, en tant que comédien, j'ai repris la semaine dernière des Supernatural, la série pour M6. Je vais faire un rôle, je ne sais pas encore de quel ordre, dans une série qui s'appelle Madame Secretary.
D'accord.
Voilà, d'accord. Un comédien que je double assez régulièrement. Voilà, donc ça fait. Ça, voilà, mon année est assez.
C'est chargé.
Les réjouissances sont pas mal, ouais.
Et toi, Alice?
Moi, j'ai pas. À part
la saison, peut-être la prochaine saison
la,
de
qui oui, va, qui... la prochaine saison de Game of, donc la saison 6 qui va démarrer à partir d'avril. D'accord. Certainement. On continue donc ce spin-off de la série Jessie Disney Channel qui s'appelle Banked, qui est du même ordre que Jessie. Et bon, je vous cache pas que Maisie Williams ayant joué notamment dans Doctor Who il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien la faire. Après, c'est doublé en Belgique, donc je n'ai pas de certitude. D'accord. Vraiment. C'est vrai que j'aimerais beaucoup, beaucoup la faire dans d'autres choses que Game of, notamment Doctor Who. Il n'y a pas longtemps, ils ont tourné un film qui a eu énormément de succès en Angleterre, qui est apparemment très très bien et qui s'appelle The Falling.
D'accord.
Qui a été étoilé, enfin, il y a des petites étoiles sur l'affiche, donc j'imagine qu'on dit qu'il a été étoilé comme un restaurant.
De Gordon Ramsay.
Il paraît que c'est vraiment un grand film, ce serait bien qu'il arrive en France. Voilà, ce serait.
Ah, c'est bien.
Moi j'aimerais bien bosser un peu plus sur Maisie Williams.
D'accord.
J'aimerais bien
plus vraiment que ce soit une identifiée. Voilà.
C'est vrai que j'aime beaucoup comment elle joue, je l'aime beaucoup aussi physiquement. Ouais.
Tu n'as jamais eu l'occasion de la rencontrer?
J'aurais pu à la Comic Con Paris, à la dernière Comic Con Paris qui était en octobre.
Elle a décliné au dernier moment.
Voilà, elle a annulé au dernier moment, dommage. Elle a dû retourner, en Angleterre. Ce qui est très dommage, j'ai été très vexée, mais c'est pas grave.
Allez, j'oubliais, je vais refaire un peu de théâtre cette année. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, donc je suis assez content.
Ah ben c'est super, ça.
À partir de juin, là, je vais répéter fin de l'hiver, de printemps. Et,
Repartir aussi dans une nouvelle aventure théâtrale.
Voilà, une création qu'un de mes meilleurs amis a écrite en pensant à moi en plus. Donc,
double honneur.
C'est un très chouette texte qui est à mi-chemin entre du Samuel Beckett et. Entre le côté absurde, la solitude, etc. de Samuel Beckett, et en même temps, il y a un côté assez trash et assez trivial à la Bertrand Blier. C'est assez plaisant.
Qui s'appellera le titre de la pièce?
Ça va s'appeler, alors on jouera au Théâtre Essaillon en juin, ça va s'appeler Chaman et Shadok ou l'imposture des rats.
D'accord, tout un programme.
C'est un très beau titre.
Un titre tout à fait évocateur.
Et sinon, moi je voulais juste, par curiosité, parce que pas que j'aime Cauchemar en cuisine, c'est bon. Gordon Ramsay, donc il est sanguin quand même, hein, si on regarde. C'est facile, c'est comment, c'est drôle.
C'est drôle.
Non mais c'est ça.
C'est, c'est que de l'énergie, du rythme, de la patate. C'est, je me souviens d'une fois où j'avais enregistré Gordon Ramsay, j'étais malade comme un chien, j'avais 39,5 de fièvre, j'avais pas de voix, j'étais avec zéro énergie. Bon, on m'avait gentiment renvoyé chez moi pour que je revienne un autre jour, quoi, en gros.
Ouais, voilà.
Mais sinon, non, j'adore ce mec. Alors là, je crois que les cauchemars en cuisine, il a arrêté de tourner un petit peu. Parce que sa femme, en Angleterre, s'est rendu compte qu'il avait un petit peu une double vie aux États-Unis quand il partait tourner.
Donc,
tu rentres à la maison et tu t'occupes un peu de nous. Par contre, je l'ai fait récemment dans des émissions qui s'appellent, Ultimate Cooking, je crois. Gordon Ramsay's Ultimate Cooking. Et ce sont les 100 meilleures recettes de Gordon Ramsay. Il y a 10 émissions par saison et 10 recettes par émission. Donc ça fait 100 recettes à l'arrivée. D'accord. Et j'ai fait 2 saisons, donc ça fait 200 recettes.
Wow. Et papa, il cuisine au moins avec tout ça à la maison.
Oula.
Non.
Il n'y a même pas de boulot à la maison.
Là-dessus, je notais quelques recettes et il y en a une ou deux que j'aime bien faire. Je suis pas un champion de.
Non,
ni sa mère, ni moi. On ne doit pas dire de marque, mais merci Picard.
C'est bon.
Mais en tout cas, merci d'être venu vous prêter au jeu des questions-réponses avec
merci
nous au
vous.
Micro. Et puis Ludo, je pense qu'il a une petite requête.
Une petite requête, juste pour nous dire au revoir. On aimerait bien que Arya Stark et le limier, même si on sait bien que le limier est bon, mais au moins qu'ils nous disent au revoir avec. Pas que ce
avec
soit
la voix
qui nous
du
disent au revoir en disant voilà, au revoir et puis à très bientôt.
Au revoir à tous les auditeurs de l'Entrepod. Et faites attention à ce que vous faites, ou vous pourriez bien ne pas me reconnaître lorsque je viendrai écourter vos pauvres vies.
Les gens sont des cons. Mais ceux-là sont plutôt sympathiques, ceux de l'Entrepod en tout cas.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux.
C'est super.
À une prochaine. C'est génial.
Merci
à vous.
Et bien voilà comment se termine cet Entrepod immersion à la convention du fantastique à la Hall Hotel de Rouen. Là, Didou, elle est super contente parce qu'elle a un message répondeur personnalisé de Gordon Ramsay.
Exactement.
Même himself.
Alors, si vous voulez le connaître, il faut m'appeler.
C'est bon, ça. Et en tout cas, nous, on a passé un super moment, que ce soit hier ou aujourd'hui. On espère que vous aussi, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé, les amis.
Franchement, hier, je venais que pour le samedi. Et je me suis décidée pour revenir aujourd'hui. Et ben finalement, je ne regrette pas parce que j'ai découvert plein d'autres trucs. Et le milieu de la comédie et du doublage, franchement, c'est passionnant. Ouais. Et on a eu affaire à des personnes
adorables.
D'une générosité et enthousiastes à notre micro et passionnées, disponibles.
Enfin, très dispo.
Franchement, super. Et expérience à recommencer, Alex.
Hein ouais, parfait, en tout cas, si l'année prochaine pour toute expérience, nous, de toute façon, on est toujours ouvert à ce genre de nouvelles initiatives, mais là encore, c'est quelque chose de nouveau. Et Arnaud, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Oui, parce que moi, effectivement, j'étais un peu frustré par le fait de ne pas venir le samedi. Je suis venu le dimanche en ayant le sentiment de peut-être d'avoir raté un premier épisode, et en fait, non, on est vraiment parti sur tout autre chose avec de très bons clients.
Ah oui,
qui arrivent vraiment à partager leur passion et leur métier. Donc c'était en tout cas, de mon point de vue, une très belle émission.
Et toi, Ludo?
Oh bah moi, un week-end bien riche, bien
bien chargé, ouais.
Bien chargé,
bien dense.
Donc entre les courts-métrages, les films, et puis surtout les rencontres, quoi. C'était vraiment, c'était des gens, voilà, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'échanges, et puis voilà quoi, on va bien dormir ce soir.
Ouais, j'en doute pas, là on va plier les gaules et puis on va rentrer. Donc juste pour mémoire, vous pouvez nous retrouver, tout ça va être sur le site de l'Entrepod, sur les réseaux sociaux, sur les différentes applications, sur Facebook, etc. Le Tipeee, je reviens pas dessus. Le prochain épisode, peut-être qu'on en fera un d'ici la fin de l'année, pour l'instant c'est pas encore arrêté. Et puis le prochain avec un invité, normalement c'est Marius qui est en...
On verra
en
bien.
Charge.
On va rien dire pour l'instant.
On va peut-être lui filer un coup de main.
Voilà, on verra bien.
Mais en tout cas, on se retrouve certainement prochainement. Et puis, on espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous dans cette expérience. Et puis, on vous dit à bientôt.
Et n'hésitez pas à liker la page, surtout.
Ouais,
hein.
Et partager. Hein, et puis, suivez tous ces gens dans toutes leurs diverses activités. C'est très intéressant. Allez, bisous.
Salut.
Qu'est-ce à dire?
Mais super. Le matériel marche bien, quoi, c'est dingue.
Ah oui, parce qu'en fait,
toujours le cas, donc on est content quand
on est des amateurs hyper professionnels.
On est moins losers qu'on en a l'air.
Voilà.
Ah non, mais hier j'étais en studio et c'était moins pro.
C'est vrai?
Ah oui, ça fait plaisir.